Certains.
Ça va les beaux gosses? Ce matin, je voulais un petit peu mettre un peu d'ambiance estivale, un peu de chaleur, un peu de calienteness dans ce stream. Alors pour la musique, j'ai tapé Summer et j'ai trouvé ce petit morceau là, Summer 15, indie pop. Voilà. Et puis après, je me suis dit ambiance soleil, ambiance vacances, lunettes de soleil. J'ai toujours une paire en ce moment, de toute façon, qui fait assez lumineux. Et je me suis souvenu que j'avais un bob à la maison. Et pas n'importe quel bob. Non. Nous ne parlons pas ici d'un bob l'éponge ou d'un bob Pastis 51. Ou, bien sûr que j'ai les tongs. Bien sûr qu'on a les tongs. Ni d'un bob Marley, Xitox. Ni d'un bob Moran. J'aime. Vous êtes très inventif. C'est mon petit kiff de Twitch quand même. Mais d'un bob Twitch. Oui, j'ai un Bob Twitch, moi. Non, pas Bob Lennon, pas Bob le bricoleur, pas Bob Bean. Non, Bob Twitch. Bob Twitch. Offert par Twitch. Alors, j'ai pas une tête à Bob. Hein. Moi, j'aime avoir quelque chose sur la tête. J'aime bien avoir les casquettes. Protection, soleil, tout ça. Et donc, régulièrement, quand je... Notamment l'été, les magasins de littoral, de bord de mer, mon œil est souvent attiré par le bob, par le chapeau, de manière générale. Et j'essaye. Panama, sombrero, bob. Je n'ai pas une tête à bob. On est d'accord. Bon, hein, j'ai un minimum d'ego, je suis présentateur, donc, mais je ne ressemble à rien, hein, en bob. Mon épouse ne me le dit pas comme ça, mais elle ne valide pas le bob. Quand j'essaye des bobs en magasin, elle me fait, c'est l'amour, ça me fait... ouais, genre, tu vois, alors qu'en fait, je ne ressemble strictement à rien, quoi. Ça va, ça passe, non? Non, le bob est cool. Non, le bob est cool. Ou alors... Ah. Ou alors... Je le porte pas bien. Peut-être que si je le porte... Et là, je le vois. Si je le porte un peu mystérieux... Ah ouais, regarde. Et là, on n'est pas passé de pêcheur de crevettes à un peu rappeur. Regarde, là, bien vissé sur les yeux, en mode incognito. Le bob ne te mérite pas, merci anonyme. Hein? Qu'est-ce que... Non, Fadi Douda, t'es pas convaincu. Hein? J'aime. Comment ça, abat-jour? Non, Jamiroquai Thier, merci Baï75. Oui, Samuel Oudjoul, je suis perdu. Non. Ah, oh, ouais, bref. Oui. Plutôt un vieux pervers le long du canal. Ah, 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 ah. Dis donc, ça va pas, non? Comment ça, on dirait la reine d'Angleterre? Comment ça, on dirait un prédateur? Ah, merde. Ok. Vous êtes des enfoirés. J'avoue, on dirait un abat-jour. Mais vous voulez me tuer ou quoi? On dirait un abat-jour. Ouais, c'est ce que me dit ma femme. T'as pas une tête à bob. J'ai une tête à casquette. Mets-toi derrière un buisson pour voir. Ok. Merci, super pote-pote. Ça met de bonne humeur. Combien les 20 grammes? Ah, voilà, là. Ok, là. Ok. Merci, Mix. J'ai eu un message de MG que je salue au début du live qui m'a intrigué. Peut-être monter un peu la lumière, moi. Et où mon téléphone? Non, ça va, moi. Qui m'a intrigué. GG pour les audiences, Samuel. Et là, vous allez voir, c'est là où je suis rapide. Mon cerveau n'a fait qu'un tour. Comme le sang. Voilà. Et je me suis dit, audience, télé. Télé, question pour un champion. Quelqu'un a un mouchoir pour Clamakine, dont le fils vient d'éternuer sur ses genoux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. N'hésitez pas, Clamakine Isbach a besoin de mouchoirs en papier. Et donc je suis allé voir. Alors c'est où ça? Audience. Alors normalement je reçois les audiences de l'équipe de prod, mais pas tous les jours, ça dépend. C'est pas. Tac, 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 tac. Et je vois effectivement que hier, donc mardi, on a fait 13%. D'audience, 1,26 million de téléspectateurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est super. Voilà. Bon, bah, très bien. Bon, enfin, en même temps. Hein, c'est. L'important, c'est que il fasse beau, un peu moins chaud, qu'on soit heureux, en bonne santé, et tout ça, tout ça. Ah, c'est gentil, ça. Oh, c'est mignon. Oh, c'est chaud. J'ai une candidate de questions pour un champion qui vient de m'envoyer une photo. Depuis l'île de la Lagune, je sais pas où c'est, depuis une plage, avec sa fille, une photo, où elle est en vacances, séjour gagné grâce à Question pour un champion. Trop mignon. Oh, les coquins. Et voilà, regardez-les sur Twitter, c'est tellement des coquins à l'instant. Romain Lactu Télé. Question pour un champion, plus haut sur France 3, malgré son arrêt annoncé en quotidienne. Oh, et vraiment, vous êtes... Arrêtez, vous allez nous énerver, les gens de... Oh, mais qu'est-ce que vous êtes taquin? Pourquoi vous faites ça? C'est en Italie, hein? Ironie du calendrier, alors que France Télévisions a officialisé l'arrêt de la diffusion quotidienne de questions pour un champion à la rentrée, le jeu culte porté par Samuel Etienne, c'est moi ça, enregistre ce week-end l'une de ses meilleures audiences récentes. Oui, on est 13%, on est bien. Ouais. Sa meilleure audience depuis le 2 juin, vous voyez, faut pas non plus, faut pas remonter à 10 ans. Hein. Un score qui témoigne de la fidélité du public, oui, enfin, c'est pas pour moi une surprise ça, et qui relance le débat sur la pertinence de la décision. Ça relance rien du tout, ils vont jamais revenir en arrière, mais c'est gentil, ça fait plaisir. Ah non, MMG, c'est trop mignon, si ça pouvait faire pencher la balance. Alors c'est mal connaître le doux monde de la télévision, que je connais un petit peu depuis 30 ans, et la psychologie des dirigeants, ce serait un vrai aveu de faiblesse en fait de revenir en arrière. Sur une telle décision qui est impopulaire, ce serait ah oui, mais on s'est trompé, vous avez raison et tout. Jamais ça n'arrivera. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, notamment celle d'Alexia à l'instant. Sur ce point, on a fait un long stream pour tout expliquer. Donc, je ne vais pas faire tous les matins l'heure d'explication sur le pourquoi du comment, de pourquoi c'est une mauvaise décision. Point d'exclamation QPUC. Et tu as le replay en YouTube ou en Twitch gratuitement. Voilà, en 3 quarts d'heure, tu auras toutes les infos, mon chouchou. Pendant ce temps-là, il se passe des dingueries à Gaza, la guerre en Ukraine se poursuit, il fait chaud, c'est dangereux pour la santé, on va parler d'alcool, de tabac, d'emploi après 60 ans, peut-être de Jurassic World même si on a le temps. Voilà, ça c'est... Hein, on va pas, hein, le monde n'est pas mon nombril. Hein, vous savez, les présentateurs, hein? Hein, voilà. Donc on va parler d'autre chose. Mais si ça vous intéresse, vous avez tous les articles sur Internet. Il y a un très bon article des Échos sur Internet. Il faut être abonné, par contre, qui date d'un ou deux jours. Et puis, vous avez tout dans le replay dont je viens de vous parler. À quelle heure tu dois nous quitter pour la cité phocéenne? Oui, Sugar, il a raison. Oh, Sugar! On a fait une bonne partie de Valo hier soir. J'ai monté vers 15h et des brouettes. Je pars à 14h30 dans la maison. Donc voilà, 14h30 sur la maison. Voilà, faut que je passe à la maison, j'ai pas fait ma valise. Et donc je vais à Marseille pour les rencontres internationales des médias, où je viens parler notamment de comment les médias traditionnels pourraient ou ne pourraient pas toucher un public plus jeune, notamment en allant sur certaines plateformes comme Twitch par exemple. Bon, c'est une petite intervention, mais ça fait longtemps qu'on m'invitait. Je n'allais jamais à ces rencontres internationales des médias, parce que c'était toujours début juillet. Début juillet, je suis en Corse, mais cette année on part un peu plus tard. Et donc j'y vais. Je vais à Marseille, ça va me permettre de bosser sur mes dossiers dans le train. Moi, j'adore le train parce que on peut bosser. Avec l'ordinateur, avec la collection. Tu ne disais pas l'inverse qu'un bon dirigeant savait reconnaître une erreur, dit Vaglette. Ah, qu'est-ce que c'est un complot? Vous voulez que je me fâche avec la terre entière? Vous voulez vraiment que je me fâche avec la terre entière? Vous voulez que je passe ma vie en procès? Je ne commenterai pas ce commentaire. Vous êtes grave, hein? Vous êtes fou ou quoi? Hein? Sta loco! Oui. Enzo dit actuellement en train de voir la vidéo de Joyka où ils sont à question pour un champion MDR. Oui, c'est un petit timing assez marrant, ouais. J'avoue. Tu l'as lu quand même, je lis tout, moi, vous, tu sais. Hein. J'arrête le tabac demain avec le laser. On est en Star Wars, là. Il y a Eminem 26 qui dit: j'arrête le tabac demain avec le laser. C'est Star Wars. Voilà. Consultation, docteur de Dark Vador. Là, mais, ok, incroyable. Mais c'est-à-dire, il te met un coup de laser dans le pif, comment ça se passe? C'est incroyable, c'est dingue. C'est facile. Dans quel monde? Hey, Lege! Mon ami Lege, voilà. Un streamer reconnu. Estimé que moi j'aime beaucoup, nous dit: bonjour tout le monde, j'avais une petite question Samuel. Sais-tu s'il serait possible légalement pour M6W9, Fremantle, RTL Group de récupérer les droits de questions pour un champion? Ça m'a l'air une bonne idée pour les concurrents de France Télé si c'est le cas. Alors, les droits de France de cette émission n'appartiennent pas à France Télévisions, ils appartiennent à Fremantle. Donc, c'est à Fremantle éventuellement de démarcher le groupe audiovisuel dont tu viens de parler pour éventuellement effectivement que Question pour un champion change de chaîne, mais ça pour le coup c'est pas moi qui m'en occupe. Peut-être que ça a déjà été fait, peut-être que ça ne s'est pas fait, peut-être que ça se fera. France Télévisions a les droits pour plusieurs années? Non, Sugar. Enfin, si d'après ce que j'ai compris, ils ont peut-être signé un truc pour le week-end, mais effectivement, c'est peut-être de toute façon, c'est peut-être trop tard, ouais. Mais non, c'est pas une piste, mon Lège. C'est pas une piste. Franchement, c'est un peu râpé cette histoire. Mais merci là, de ta mobilisation, ça fait plaisir en vrai de devoir poser ces questions et j'espère que la vie va et que tu vas bien. Trop bien le train, mais j'ai bientôt plus la carte jeune, il va falloir une augmentation, pas sûr que France Travail accepte, me dit machin. Moi je vais doucement vers la carte senior là, donc c'est cool. Donc bientôt à moi la réduc des vieux. Hein. Tadam! Merci Gary. Oui, effectivement, il y a une pétition. Ouais. Il y a une pétition, mais je suis. Vous savez, je suis une nature très optimiste, moi. Mais cette pétition, elle, je crois qu'elle a 15 000 signatures. En vrai, elle aurait même 1 million de signatures. Je pense que ça ne suffirait pas. Je sais pas. Il faudrait vraiment des chiffres de fou pour revenir en arrière. Je pense à au moins 2 ou 3 millions, quoi. Et donc voilà, mais c'est bien, hein, c'est cool. Hein. La carte senior, remise spéciale pour les messieurs espagnols. Centriste, même en optimisme. Eh ben, le petit tacle exutoire du matin, ça fait plaisir. Oui, 17 700 signatures, ça progresse. Merci Anonyme31. On est effectivement pas loin des 3 millions. L'espoir renaît. Merci Eminem 27, merci Camille pour les 5 abonnements offerts à la communauté. Tu régales, merci de ton soutien. En ce moment, ça fait plaisir. Eminem 26, merci pour le soutien. Cassé Mika, merci pour le deuxième mois. La matinée Étienne, oui. Alors, très bonne question de Mika qui dit tonton Sam, est-ce que la matinée Étienne, LMET, tiens, je n'avais jamais mis sous forme d'acronyme comme ça. Oui, c'est tous les jours. Alors, l'objectif avant, c'était tous les jours. Sauf qu'on était régulièrement empêchés, interrompus par. Question pour un champion. 7 jours de tournage par mois, 7 jours sur des jours de semaine, donc souvent du mercredi au mercredi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou plus que ça, mercredi au jeudi, ou truc comme ça. Et donc, du coup, il y avait 7 jours sur 20 jours ouvrés, comme on dit, du lundi au vendredi, où il ne pouvait pas y avoir de revue de presse, parce que j'étais en tournage, j'étais en plateau, quoi. Donc, ce nouveau rythme lié à Question pour un champion, forcément avec très très peu de tournage désormais. Et bien va me permettre d'être beaucoup plus présent et un des engagements que je prends là solennellement ici devant l'univers et la force qui n'est pas obscure, c'est que du coup la revue de presse ça va être quasiment tous les jours. Ouais. Voilà, sauf vraiment, je vois pas, je ne prends plus de rendez-vous pro le matin pour pouvoir sur la revue de presse. Je n'ai plus de tournage le matin, j'en ai très très peu. Et donc ces derniers jours, cet été. Et à la rentrée, c'est revue de presse, revue de presse, revue de presse, quoi. Oui, j'ai pas que des mauvaises nouvelles dans cette histoire. Est-ce que ma vie pro s'arrête cette année? J'ai lu ça ce matin en cherchant des news sur Sam. Oui, effectivement. Encore l'illustration du fait que c'est comme les chasseurs, il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Bon, le mauvais chasseur, il voit un gibier. Paf! Il tire, vous avez la ref. Le bon chasseur. Bon, il voit un gibier. Bon, paf, il tire, mais, c'est un bon chasseur. Bon, chez nous, les journalistes, c'est pareil. Donc, hier, j'étais en réunion, hier après-midi, 17 h, pour être précis, avec toute l'équipe de MVP, Ma Vie Pro. Ma Vie Pro, c'est le rendez-vous 2 fois par mois qu'on annonçait en septembre dernier sur ma chaîne Twitch. Pour parler de vie professionnelle, de métier, d'orientation, de qu'est-ce que je pourrais faire plus tard, je m'ennuie dans mon métier, est-ce que je pourrais pas faire autre chose. On est super super heureux. Et donc on est en train de bosser sur le nouveau décor. C'est quoi? On va même poster le nouveau décor là tout de suite ensemble, on va le faire ensemble. Le nouveau décor, la nouvelle DA, la nouvelle, on change un petit peu la ligne éditoriale, l'émission plus souriante, avec plus de petits jeux pour rigoler. On va peut-être changer l'horaire aussi, j'ai fait une proposition. Voilà, donc on repart hyper heureux pour une saison 2. Et là, à un moment, je scrolle un truc, je dis, ah, il y a un gars, il y a un journaliste qui annonce la fin de l'émission. Et là, on a tellement rigolé. Waouh, la qualité des informations. Bon, je suis catégorique, hein. L'émission s'arrête. Hein. Et nous, on est en train de caler à commencer à caler les invités pour la saison 2, quoi. Que faire, les gars? Que faire, les gars? Vous savez quoi? On va même le faire ensemble, on va tweeter. Voilà. On va tweeter le nouveau décor. Il est joli en plus, comme ça, vous allez voir en avant-première. Avant, c'était une table et puis là, on part vers un canapé. Non, MVP poursuit, bien sûr, on est très heureux. Qui m'écrit là? Il y a du SMS? Ah. Ah oui, ouais, pas si je ferais ça. Tony. Ah, je suis content, j'ai passé la soirée. C'est pour ça que j'ai lancé tard Valo hier soir, enregistré une vidéo autour de l'Euro féminin de football, dont je vais vous parler aussi ce matin, d'ailleurs. L'Euro féminin de football qui commence dans quelques jours. C'est en Suisse, je crois, et puis on espère que les Françaises aillent loin. Je crois qu'elles sont jamais allées plus loin que les quarts de finale, ce qui est déjà plutôt pas mal. Pourquoi pas rêver d'un titre même. J'ai fait une petite vidéo hier qui m'a pris un petit peu de temps et en fait là j'ai le retour sur ce que j'ai fait hier soir et les gens sont très contents et ça me fait plaisir donc hop super ouais, quand tu bosses et que les gens sont contents de ton boulot tu es heureux, tu es heureux. Ça commence aujourd'hui carrément? Ah oui, remarque il y a des papiers ce matin donc c'est pas impossible ouais. Hein? Ouais, alors attends donc paf 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 paf. Donc MVP, on va tweeter ça. MVP ma vie pro. Alors il est où le nouveau plateau? MVP, nouveau plateau. Vous m'excusez, hein, c'est important parce que j'aime bien cette émission, je suis très attaché à MVP. Ah, je l'ai. Voilà. Je le tweet en direct live. Je vais vous montrer. Ah! Oui, je sais, Sugar. Arrête, j'essaie de faire un suspense. Hop. Pap. Très heureux. Très heureux de vous annoncer qu'en septembre, on retrouve MVP. Pour une saison 2. MVP, entre parenthèses, ma vie pro, l'émission sur Twitch, hein, du coup. Ah, bah, je suis en train d'expliquer à Warisekai. Sinon, tu tapes point d'exclamation MVP, tu dois avoir des infos. Ouais, voilà. Merci Nightbot, merci Camille. Sur Twitch, qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. J'aime bien ce pitch de l'émission. C'est une émission qui explore les tafs, les secteurs d'activité, les filières, pour que chacun trouve la sienne. T'es jeune, tu sens là ton avenir, ou alors tu es déjà salarié, ou tu bosses déjà, mais t'es pas super happy dans ton job. Voilà. Ouais, aujourd'hui l'euro, ok. Qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Très fier de cette émission. Plein de nouveautés en vue. Ouais, c'est vrai qu'on va garder tout ce qui est bien, puis on va faire évoluer des trucs. Enfin, bon, l'équipe est super. Ouais, en avant-première. Voici le nouveau décor. Donc, méfiez-vous des infos sur Internet. Hein. Il y a eu un message en avant? Alors, attends, Twishman. Bonjour Samuel Etienne, un œil sur les propos de la ministre Agnès Pannier-Runacher sur la climatisation. Ah bah j'ai prévu de vous en parler de la clim ce matin. J'ai deux articles sur la clim. Salut la petite potière, tu vas bien? Voilà. Il est long mon texte, qu'est-ce que je suis bavard. Ouais, il y a des travaux dans la cour, ouais. Tom, je vais peut-être fermer la fenêtre, ouais. Oh, quel bordel. Fermez ta gueule, ouais. Bon, enfin, j'arrive. Non que ça, on peut plus bosser ici. C'est fou en ce moment les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues là. On peut plus bosser hein. Ah oui, c'est mon cousin de Age of Empire. Ben non, la petite potière, c'est normal. Alors, très heureux de vous annoncer qu'en septembre, on retrouve MVP pour une saison 2. MVP, ma vie pro, l'émission sur Twitch qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Très fier de cette émission, plein de nouveautés en vue. On prend bien le nouveau décor. Ouais, c'est cool en vrai. C'est propre. Hein? Ouais. Vous allez voir le décor, il est cool en vrai. Je vous montre. Alors, je vous montre. Viens, un petit ordinateur. En vrai, c'est joli. On quitte la table ronde. Moi, j'aimais bien le décor, mais on dit non, on voulait un truc plus chaleureux et tout. Moins télé. Qu'il fasse moins code télé. Regardez. Hop. Donc, ça, c'est le tweet qu'on vient de faire là. J'espère qu'il n'y a pas de faute. Très heureux de vous annoncer, mais je veux pas sponsoriser ce tweet. Qu'est-ce qui me raconte là? Voilà. Très heureux de vous annoncer qu'en septembre on retrouve MVP. Salut la dépêche. Je manque. Alors je cours un peu après le temps en ce moment comme toujours. Et en fait, alors quelqu'un, un journaliste d'un excellent journal qui s'appelle La Dépêche dans le sud, La Dépêche du Midi. On dit pas juste La Dépêche maintenant? Je sais plus. Me propose une interview pour parler de questions pour un champion. Et en fait, moi, j'ai donné aucune interview sur questions pour un champion. D'abord, un, parce que je passerai ma vie en interview. Deux, parce qu'en fait, comment dire, je vais redire ce que j'ai déjà dit dans ce live sur ma chaîne. Et voilà, qui a déjà, d'après mes informations, passablement énervé la direction de France Télévisions. Et en fait, ça va. Bon, voilà, je vais juste redire un truc. Ça va encore plus les énerver. Ça va rien changer au schmilblick. Bon, voilà. Donc, voilà. Et puis, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est extrêmement précis. C'est hyper carré. Donc, voilà, puis au moins, je maîtrise ce que je dis, je le dis. Et puis ça peut pas être mal interprété ou réécrit un peu différemment, malgré la qualité du média qu'on est en train d'évoquer. Donc ça, je manque un peu de temps, quoi. Voilà. Donc hop, regardez. C'est beau, c'est beau. Voilà. Alors avant, on avait une table ronde. Je vais essayer de vous retrouver le. Est-ce qu'on a. Ah oui, là on a. J'ai la vidéo là. Attends. Attends, faut que je trouve. La
Bonjour les amis, bienvenue dans ma vie pour la tétra.
Ça, c'est une émission carrément, carrément, carrément. Donc là, je vous montre l'ancien décor, celui qui nous a occupé toute une saison. Que, en vrai, qui est cool hein, pour un décor internet, je trouve. Voilà. Joli ou pas, mais un peu code télé quoi. Bon, plateau, table ronde, très très joli d'ailleurs. On pose nos gourdes, nos tablettes, des jolis fauteuils. En vrai, moi j'aimais beaucoup ce décor un peu pop, belle lumière, chouettes invités. Ça n'a pas changé. L'ami Ludo, etc. Qui est ce beau gosse? Mais qui est ce beau gosse? Excusez-moi, je suis pas reconnu tout de suite. Donc, ça c'est le plateau. Et on passe à ça. Voilà. On voulait quelque chose d'un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est pour changer, quoi. Voilà. Plus ouvert. Hein? Bien? Pas mal, non? Voilà. Et puis, on va pouvoir. Donc, regardez ce canapé qu'on a choisi. On n'a pas fait n'importe quoi. C'est un canapé où on ne peut pas s'avachir. C'est un canapé où on se tient bien. Hein. On n'est pas chez les Azous. On n'est pas chez les Bitniks. Hein. On n'est pas là pour faire une sieste. On Donc c'est un canapé où on se tient droit. Voilà. Et en plus il est modulable. Ça veut dire que quand on est 6, ben, on fait ça. Quand on n'est que 2, par exemple, à la fin, quand j'ai mon invité MVP, eh bien on enlève des éléments et on sera bien. Voilà. Joli. Voilà. Alors on n'est pas avachi comme dans Samplay, ouais. Ça doit être un poltron et sofa. Je sais pas du tout. C'est pas moi qui m'occupe du décor. Voilà. Alors moi, dans les interviews one to one, pour créer un climat un petit peu confidentiel, un petit peu, tu vois, moi je serai là, à gauche là, voilà, et je mettrai l'invité là, voilà, pour qu'il y ait une proximité, une chaleur, voilà, tac tac, voilà. Là et là, Parce que, oui, proximité et chaleur, mais faut pas déconner quand même. Hein. Imaginons que je dis n'importe quoi, l'inviter à un virus. L'inviter à un virus, là, ou l'inviter ne sait pas laver les dents. Bon, ça peut arriver. Ou l'inviter, il fait chaud, c'est la canicule, et on invite un gamer, et la douche, il y a eu un moment. Voilà. Donc là, moi je dis, le présentateur ici, l'invité ici, pas de problème. Quoi ? Invite pas JL Tommy ? Alors JL Tommy, j'ai passé 24 heures avec lui. Je peux dire que le mec, il sent très bon de la bouche. Ils sont pas le gamer. Et il a pas de maladie. Donc, mauvais call. Donc voilà. Donc on a tweeté ça ce matin. Tac, tac. Ouh, il y a déjà plein de commentaires. Merci MMG. Le décor à la classe. Ouhou. Ah, je vois que ça débat beaucoup de la clim sur les réseaux. Ok, ça tombe bien, on va en parler ce matin. Putain, j'ai presque... Hey, les gars. Le gars qui a écrit la question pour un champion au plus haut à 13% là, le communiqué là. On en ferait pas un truc en vrai. On ferait pas un petit retweet là, vite fait là. Mais genre, mais c'est vous qui l'écrivez quoi. Hein? Allez, riposte. Non, pas riposte, citation. Annule riposte, citation. Qu'est-ce qu'on... C'est... Non, parce que c'est vous, vous savez, vous êtes plein là, vous êtes combien ce matin? Vous savez, voilà, vous êtes presque 2700. Hein. Qu'est-ce qu'on s'écrit là? Un truc gentil, efficace, pas un truc. Moi, je veux pas d'agressivité, je veux pas de colère, rien du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on écrit? Un simple emoji, juste genre, qui lève les yeux au ciel, t'as pas autre chose? Allez l'OM, France TV n'a qu'à bien se tenir, Kappa, c'est pas moi qui le dis. Les chapeaux, un clown, un smiley, étrange. Comment ça, les audiences sont records? C'est pas mal, ça me gêne. Les affaires sont les affaires. Oh, un simple oui, genre oui. Ah oui, oui. Ah oui, ah oui, ah oui, un petit oui. Ah ou un lol. Futong propose, imagine ton émission, elle vend en poupe et tu l'annules. Oh, Sam 1, France TV 0, non, trop hardcore. En plus, c'est pas France Télé, c'est pas une personne qui prend une mauvaise décision, c'est pas le groupe. Hein. Moi, je confonds pas. On ne nous dit pas tout. Un petit OK, Mathieu propose un petit OK, CQFD, un E, oh, Ah oui, ah bon, vu et sans tape. Le petit clown. Le hashtag ça fait réfléchir de Gurin qui est pas mal. Radeau de la Méduse. Ah, le ah bon point interrogation. Le ah bon point interrogation. La roue tourne à tourner. La roue tourne à tourner. Oh putain, mais attendez, la roue tourne à tourner. Prout, 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 c'est assez mon humour, mais après, il y aura un article dans Le Monde encore. La roue tourne à tourner, c'est pas mal. Les hommes mentent pas les chiffres. Non, trop hardcore, mon roi Val. Non, Sugar, le vu et s'en tape la direction. Non, 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 non. Question pour une audience. Oh, joli. Merci la dépêche, non mais c'est un vrai, là je saute dans un train après le stream, je vais à Marseille, 2 jours, là j'ai les vacances en Corse qui se préparent, là je suis sur 1000 projets, franchement tout est dans mon stream, hein. je suis désolé. De toute façon ça ne change rien. Et les téléspectateurs ont choisi leur camp, oh là là, Arc c'est bien mais c'est hardcore. Partir au sommet c'est beau. Oh. C'est hardcore, mais c'est bien. Je suis venu pour les choquer. Oh là 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 là, mais tu ne sais que choisir. Oh, top, je suis une émission qui cartonne chez les jeunes et je me prends des bâtons dans les roues. Je suis. Enquiseur, c'est bon, mais waouh. Le ah oui, Julien. Ah oui. Oh. Ah oui, le ah oui. Ah oui. Ah oui, ah il y a ça aussi. Ah, le oui tout court, il vous plaît bien. Le groupe vit bien, c'est pas mal ça. Qui veut du café? Oui. Le baroud d'honneur? C'est pas le baroud plutôt, Tom Tom? Je m'en vais comme un prince. Je m'en vais comme un prince. C'est beau, mais je m'en vais pas vraiment. Veni, Vidi, Vici. Oh, je me régale, je me régale. Vous êtes tellement inventif, quoi. C'est ça, c'est la force de la commu, ça. Ou juste un smiley. Ou les... Ah, les petits yeux là, ouais, c'est bien ça. On me voit plus. J'aime bien, j'aime bien. Ah, juste tu dis merci, c'est pas mal aussi. Ah, merci, juste merci. Pas mal aussi. Moi, vous savez ce qui m'a notamment plu, c'est le ah bon. Le ah bon point interrogation, je le trouvais assez efficace. Oh, mec, QPUC great again. Il y a un petit. Salut, casquette verte, ça court. Il y a un petit côté maga là, tu vois. Hein? I don't know. Un petit ah bon point interrogation, c'est pas mal. Si je pars sur ah bon, ça vous va? Pas mal, ah bon. Ou clafoutis, clafoutis. Ah le, attends, marre de Carrie France 3. Attends, un petit, attendez. Un petit. Ici, ça carry France 3. C'est pas mal aussi. Trop provoque? Ah, c'est un petit peu trop hardcore? Bavoyant, c'est pas une ref un petit peu politique, ça, bavoyant? Ah, c'est un peu méchant. Ouais, alors trop hardcore. Ok, d'accord, ok. Oh, France 3 dans le sac à dos? Attendez, ça c'est ok ça? France 3 dans le sac à dos? Ah, c'est une ref à Zemmour. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien ce que je pensais. On va pas aller sur ce terrain-là, les gars. Hein. Ouais, bah voyons, c'est Zemmour. Non, non, les gars, pas de politique là-dedans. Hein. C'est ça n'a rien à voir avec la politique. Dans le sac à dos, c'est mignon. Allez, on essaye ça. C'est pas mal. Après, il y a le côté, c'est... Toi, c'est d'impliquer François là-dessus, quoi. C'est votre dernier mot, c'est... Oh, c'est votre dernier mot? Mais c'est excellent, Mathieu. C'est votre dernier mot. C'est votre dernier mot. La ref à Jean-Pierre. Mais c'est... Ah ouais. Ah non, non, il y a tout dedans. Il y a tout là. C'est votre dernier mot? T'as pas la rêve du sac à dos? C'est un truc de gamer. C'est quand tu carries quelqu'un, quand t'as un bon niveau sur une game et que t'emmènes tes mates et que tu fais gagner la game grâce à ton niveau et pas celui de tes mates, tu les carries. Et tu les carries, tu les transportes en fait. Et voilà, et le mec peut te dire, bah viens, vas-y, monte dans le sac à dos et je t'emmène quoi, tu vois. C'est un truc de gaming en fait. Tout premier tournage avec JP, je l'ai adoré direct, vraiment très sympa. Pas Pernaud, comment il s'appelle Ah, attends, attends. Ah, le mec le plus gentil de la Terre. Comment il s'appelle Foucault. Foucault, moi je l'ai pas croisé souvent, mais c'est vrai que le mec est cool. C'est votre dernier mot? Bah on part sur ça. Hein. Oh. Eh, on s'amuse. On s'amuse. Ça rigole. Hein? Voilà. Non, parce que j'ai peur que Francis ne comprenne pas la rêve du sac à dos, qui est une rêve mignonne et qu'il le prenne mal. Tu vois, et en fait, il faut faire toujours attention comment la blague peut être comprise. Chez moi, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de colère. On a le droit de se tromper dans la vie et de prendre des mauvaises décisions, et c'est pas pour ça qu'on va se mettre en colère. Mais du coup, faut faire attention aux blagues mal comprises, quoi. Moi, je me moque de personne ici. Hein. On s'en fout. Qui m'appelle là? 10h48. Il y a du message là? Ça laisse pas de message, c'est que c'est pas important. Hein? Je suis trop content de ce que vous avez trouvé. Vous êtes des gouttes. Ok. Ah, vous êtes trop fort. Ouais, l'humour, ça marche mieux quand tout le monde peut comprendre. Anonyme 31, exactement. Moi, je suis vraiment en colère, me dit Drafamy, pour ma grand-mère, dont l'un des seuls moments détente, c'est la question pour un champion. Je sais, frère, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je sais. Merci la Todd pour le 35e mois d'abonnement, Kerigana pour le 30e mois, Jeannot pour les deux abonnements offerts à la communauté, Schizopathe pour le Prime, Antigma pour le 8e mois, Lamumuzette pour le 46e mois, nom de Dieu. Et vous êtes des gouttes. Merci. En ce moment, ça fait plaisir. Au fait, ça se prononce Cupuc. Non, je déteste ça. Non, c'est question pour un champion, c'est question pour un champion. Éventuellement question. QPUC, mais Cupuc. Voilà, c'est vraiment. Les gens qui aiment ce jeu ne disent jamais Cupuc. Les candidats, ceux qui adorent ce jeu, les mecs qui s'entraînent pendant des mois, des années pour venir jouer, ils disent jamais Cupuc. C'est comme journaleux pour journaliste, quoi. Ah, il y a Journalop aussi. Non, non, Cupuc, vous oubliez, c'est vraiment affreux. C'est vraiment le truc de plouc. C'est pas un club échangiste, hein. Putain, c'est Cupuc, c'est quoi ce nom-là? Vous êtes sérieux, là? Ouais, oui, ça se fait un peu comme Puduc. Ça sent très bon. Question pour un champion. Ça sent la culture. Ça sent les herbes fraîchement coupées. Ça sent le soleil. Ça sent pas le huc. Ah non, c'est affreux. Oubliez-moi ça. Hein. C'est Bandef la prochaine fois, hein, le problème. C'est Death Note direct. J'ai dit Death Note. J'ai bien articulé. Ne m'emmenez pas sur autre chose. Hein. Ah non, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas assez de lumière. Attends, je vais monter la lumière. Quand il n'y a pas assez de lumière, la caméra elle aime pas. Je te montre ça. Ah ouais, il n'y a pas assez de lumière. Voilà, ça devrait régler le truc. Voilà, bon, on va bosser un petit peu. Ok. Putain, il y a 122 likes en quelques secondes, quoi. Ah, papa, putain, je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler. Ça va. Ça va téléphoner. Bon, à moins que vous pétez un câble, hein, on ne peut plus de l'autre, là. Hein? Hein? Oh là 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 là. Préparez-vous à l'annonce, hein, les prochains jours, là. Hein? On va passer de 2 jours par semaine à zéro. Hein. Ah, il est trop insolent. Hein. Trop insolent. Hein. On ne peut plus de l'autre, là. Ils sont. Son switch là sur les internets là. Ah, énervant. Non, pas pour le producteur il est cool. Le Twitcher, là. Oh là 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 là, on n'en peut plus. Il est fou allié. Il faut absolument qu'on... Hein, faut qu'on coupe la branche, là. Hein. Bon, eh, on se fait un petit sommaire. Je vous dis de quoi on parle ce matin. Bon, je recolle le truc. Hein. Ah, rencontre internationale des médias, on se retrouve dès 18h. Nous avons hâte de vous retrouver. C'est où, ça? Bonjour, Samuel Etienne. Nous avons hâte de vous retrouver ce mercredi 2 juillet.
C'est aujourd'hui, ça?
Ouais. Aux rencontres internationales des médias. Ok. À ne pas manquer. Ok. Ok. Ok, très bien. Hop, ça, je ferme les mails. Et on est parti pour le sommaire. Le sommaire, pour ceux qui ne sont pas habitués à la revue de presse, c'est, je vous dis, ce dont on va parler en quelques minutes. Vous êtes pas, comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester 2 ou 3 heures. On va parler évidemment, évidemment de la chaleur ce matin. C'est la une du monde, je crois. Qu'est-ce qu'on a en une du monde? Paf, on a ça. Canicule, comment veux-tu? Comment veux-tu? C'est à toi les écouteurs? Ah bah non, c'est à ton cousin. Il y a Maverick qui dit c'est à toi les écouteurs. Ah non, je les ai empruntés à ton cousin, c'est José. Mais dis-lui que je vais lui rendre bientôt, bien sûr. Donc, canicule, pourquoi la France est mal préparée? Mardi et mercredi, le pays subit le pic d'une longue vague de chaleur extrême. Météo France a placé 16 départements en vigilance rouge, 68 en vigilance orange. Seuls 5 départements situés dans le nord-ouest, on se demande pourquoi, échappe à la fournaise. 1350 écoles publiques fermées. Une centrale nucléaire Golfech a dû arrêter un de ses réacteurs. 34 départements avec des restrictions d'eau. Après avoir été discret sur le sujet le week-end dernier, François Bayrou a annulé son déplacement mardi à Chartres pour suivre en temps réel la situation météorologique. J'imagine Bayrou à Matignon, la tête sur un thermomètre, en train de voir si ça monte pas trop, quoi. Donc, je crois que l'angle du monde, c'est de montrer que malgré les épisodes de canicule précédents, notamment, vous vous rappelez, 2003, et tous les morts, eh bien, la France n'est pas vraiment préparée à tout ça. Une canicule d'ampleur inédite en France, voilà. Donc, on lira ce dossier. Là, c'est vraiment factuel. Hein. On parlera de météo, on parlera aussi de climat. La météo, c'est le temps qu'il fera demain. Le climat, c'est sur le temps long, et notamment les changements climatiques. Et puis, après ce petit point-là, on ira voir le débat sur la clim, dont certains m'ont parlé ce matin. Ça débat de la clim, c'est la une de Libération, carrément, ce matin. La clim jette un froid. Excellent. Ah bah oui, Ilono, il y a 50 ans, on avait les mêmes températures, on ne se plaignait pas. Le changement climatique, le réchauffement climatique... Invention, ce sont les cycles naturels de la nature. De mon temps, il faisait déjà chaud comme ça, et on ne disait rien. Hein. Merci beaucoup. Canicule, la clim jette un froid. Un quart des foyers français sont désormais équipés de climatiseurs, et les installations s'accélèrent à chaque nouveau pic de chaleur. Quelles alternatives face à cette fuite en avant collective? Est-ce que c'est bien la clim? Est-ce que c'est pas bien la canicule? Pousse au clim. Libération très en forme. Contresens, dit Paul Quignot dans son édito. Libé qui n'a pas l'air 100% clim, hein. Existe-t-il des alternatives propres? C'est la question. Bien sûr, attends, Cucucarel, t'inquiète, je vais aller voir ton historique. Ne t'embête pas. C'est adorable. C'est adorable, Cucucarel. Envoie-moi un mail sur mon mail pro que tu trouves sur X, sur mon compte X Twitter, on échange là-dessus, c'est adorable. Bah, je voudrais pas abuser en vrai, mais c'est trop chaud. Voilà, donc on se penchera là-dessus. Donc Libé qui semble regarder le bloc clim d'un regard un peu suspicieux, on verra pourquoi. Et à l'inverse, dans Le Figaro, j'ai trouvé quelqu'un, page 19, qui dit mais pourquoi pas la clim? Et si on tentait la clim? Hein, voilà. Donc c'est une dame, Bertil Bayard, qui dit « Oui, haro sur la clim montrait du doigt, mais attention peut-être dans certaines situations, eh ben, c'est quand même quelque chose de nécessaire. Sugar dit pour les plus fragiles au moins. Voilà. D'après ce que j'ai compris de cet article, la dame ne dit pas à fond sur la clim, elle dit attention, parfois c'est quand même nécessaire, notamment pour la santé des gens. On ira lire cet article. Je vois plein de commentaires, pardon, notamment sur la clim. Désolé, je ne les lis pas puisqu'on n'est pas dans la revue de presse à proprement parler, on est dans le sommaire. Sans exagérer l'époque, te souviens-tu de très fortes chaleurs comme celle-ci quand tu étais jeune? Tu veux dire à la préhistoire? Désolé. Donc la clim, je vous parlerai aussi du Proche-Orient. Hein. Vous savez que j'essaie de continuer à suivre, malgré le fait qu'il y ait moins d'articles en ce moment, ce qui se passe à Gaza. Et on a un article dans Le Monde qui parle de la faillite morale de l'armée israélienne. C'est page 2, je crois. Attends, est-ce que c'est page 2? Ouais. En Israël, débat sur la faillite morale de l'armée avec des témoignages de soldats israéliens, recueillis par le quotidien israélien Haaretz, qui ont provoqué une onde de choc. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'en Israël, tout le monde ne valide pas ce que fait Netanyahou. Voilà. Et vous avez des soldats qui ont témoigné de choses qui choquent une partie de la population israélienne. On va se pencher là-dessus. Ouais. Ne commencez pas à vous énerver, on est dans le sommaire. Attendez un petit peu tout à l'heure. Alors, les gens qui ont une ligne nous résument des siècles et des millénaires d'histoire. C'est toujours très intéressant. Ensuite, est-ce qu'on reste au Proche-Orient? On ira en Italie. On ira en Italie avec les Échos, avec Madame Meloni, présidente du Conseil italien. Donc on est sur l'extrême droite italienne. Donc extrême droite italienne, vous imaginez bien que le rapport à l'immigration, il n'est pas, c'est pas, hein, on n'ouvre pas on n'ouvre pas les frontières, on n'a pas les bras grands ouverts. Hein, c'est l'extrême droite. Et pourtant, on est où là? C'est dans les Échos, page 7. Quij, qu'entends-je? Voilà, bien vu Mix, tu l'as. Où est-ce qu'on est? On est page 7, je crois. Là, bim, quelqu'un disait bim 50 000, non, bim 500 000, ouais. Meloni ouvre les portes à 500 000 travailleurs étrangers supplémentaires en Italie. En 5 ans, la coalition des droites en Italie aura fait venir près d'un million de travailleurs extra-communautaires pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre. Imaginons un peu de vie. Je voterai RN. Je dirais, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. Elle est où l'extrême droite? C'est-à-dire, à quel moment on ne peut plus faire confiance à ces gens? Hein, y a des trucs qui va. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment la Mélanie qui est clairement identifiée à la droite de la droite, qui a eu bon après on a. Un droit d'avoir une jeunesse, mais qui a eu une jeunesse fasciste proche des jeunesses mussoliniennes. Aujourd'hui, elle fait venir en masse des centaines de milliers de travailleurs étrangers. Donc, c'est quand même, on a envie de comprendre. J'ouvre le débat. Je pose la question. Voilà, donc, on va se pencher sur ça tout à l'heure. Quoi. C'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai dans le sommaire encore ce matin à vous lire? Page numéro 6. Je demande le numéro 6, je ne le vois pas. Ça, c'est l'âge. Ah ! Bon, en France, on fait le constat qu'il y a eu des politiques publiques contre le tabac qui ont porté leurs fruits. Les Français fument de moins en moins. Et il y a quelqu'un qui pousse un coup de gueule dans Le Monde ce matin qui dit « Et l'alcool ?» Oh, que ça va crier encore, ça. « Et l'alcool ?» Page 29. Sac. Tabac, alcool, un incompréhensible deux poids, deux mesures. Comme le dit Framboise, le lobby de l'alcool ne va pas aimer en France. Il y a une dame qui s'appelle Nathalie Braffman qui dit « Ok, bon, le tabac, les politiques publiques, on n'arrête pas de taper sur le tabac, la hausse des prix, les trucs, les photos dégueulasses sur les paquets, blablabla, blablabla, la sensibilisation publique. Et l'alcool qui provoque autant de dégâts sur la santé des Français, hein ?» cancer, etc., etc., eh ben, on fait rien. La dame, elle se dit, mais comment, pourquoi? Donc on va... Alors la loi du plomb, on en a parlé longuement hier, Catalèse, tu l'as en replay, mon ami, dans la revue de presse. Donc on parlera de ça aussi. Après l'alcool, donc ça c'est dans le monde, on ira numéro 7. Ah oui, ça c'est un truc pour moi ça. Ça, ça c'est vraiment que pour moi, ça c'est vraiment un dossier que je lirai pour moi. Ils ont trouvé un emploi après 60 ans. Malgré les préjugés, certains retrouvent du travail à la veille de leur retraite. Un projet de loi créant un CDI senior, c'est pour moi ça, sera examiné jeudi. Bon, les chiffres de l'emploi des plus de 55 ans en France, c'est une catastrophe. Les entreprises ne veulent pas de salariés âgés, ils ne les gardent pas. Va donc voir ailleurs si j'y suis. Donc les chiffres sont catégoriques. Et bon, bah, la croix se penche sur ceux qui arrivent quand même à trouver du boulot, quoi. Bon, là, ça me concerne puisque moi-même, je ne suis pas de toute première fraîcheur. Et que, effectivement, en termes d'emploi, là, j'ai pris un petit coup derrière la nuque. Donc ça, ça m'intéresse. Hein, je lirai ce dossier. Peut-être que je vais trouver des pistes pour la suite, pour aller au moins jusqu'à 67 ans, quoi. Donc on lira ce dossier dans la croix. Et on lira des papiers sur l'euro féminin de foot, qui se joue en Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez raison, quelqu'un me disait, ça commence aujourd'hui. On a un article dans l'Humanité ce matin. Voilà. Je vous en parlerai aussi, moi, vendredi matin, de ça. Tiens, on va ouvrir l'UMA. Viens, mon petit UMA. C'est quelle page? C'est page 15 dans l'UMA. Toc. Chaque, je sais pas comment je prononce ton prénom, je vais t'appeler Shakira. Premier message sur la chaîne à l'instant. Pourquoi Twitch, ça paye bien? Non, tout à fait, d'ailleurs. Et j'attends ma Shakira, ton sub, n'hésite pas. Donc, c'est où ça? L'euro féminin de football, vous savez que le sport féminin a de plus en plus de succès, les audiences sont de plus en plus fortes et c'est très bien. Euro 2025, l'édition de tous les records. Football, le championnat d'Europe des nations féminin, débute ce mercredi en Suisse. Tous les indicateurs économiques sont en forte augmentation, preuve de l'attrait pour cette compétition. Ha ha! Ha ha! Hein? Voilà, ça c'est bien. Vous savez qu'ici, on essaye de promouvoir au maximum l'e-sport au féminin. Mais le sport au féminin, c'est très très bien aussi. Donc on lira ça. Et l'équipe en parle aussi longuement ce matin. J'ai un gros dossier dans l'équipe. Il est où mon équipe? Il est là. L'équipe, c'est page quoi? Attends, faut parcourir. Faut ouvrir le journal qui est là. Je ne veux pas m'inscrire à ce truc. C'est ce que j'ai fait là. Je veux le journal, moi. Voilà, il y a du tennis. Et il y a un gros dossier dans l'équipe. Tout sauf neutre. Dans la phase de groupe de 7 euros, sans plusieurs stars telles Wendy Renard, Alexandra Pop ou Marie Herbst, la 14e édition de l'Euro féminin qui démarre aujourd'hui sera l'occasion pour de nouveaux talents d'émerger. La Suisse, donc c'est ça, hein, c'est le pays hôte, rêve d'une fête aussi belle et réussie que celle en Angleterre en 2022. Voilà, et là, vous avez l'équipe de France de football, ici, qui est sur une série de 8 victoires. Si je ne dis pas de bêtises, d'après mes recherches ces derniers jours, la France n'a jamais dépassé les quarts de finale de l'euro, à vérifier, on vérifiera, ce qui est déjà pas mal en vrai. Voilà. Le séditieux 2, 4, 3, sub, ça paye pas de fou. Bah si, c'est bien déjà, merci. Hein. J'ai déjà beaucoup de chance. Hein. Voilà, ici on est transparent. 2363 abonnés, ben c'est déjà bien. Hein. Voilà, merci de votre soutien les amis. Voilà, donc on va pas mal parler de foot féminin, on en parlera aussi vendredi. Elle est pas bien ce sommaire? Merci Jason. Jason pour le Prime. Merci Wuss Memphis pour le Prime. Merci Tipsy. Bisous à ta maman pour le 4e mois. Merci Shakira qui vient de sub. Enfin, je t'appelle Shakira parce que je sais pas comment prononcer ton pseudo, je suis désolé. Shakira que je titillais, qui disait c'est, pourtant ça paye bien Twitch. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Tu régales. Je fais une petite vanne et tu sub. Mais tu es une espèce de goat ou quoi? Merci mon Shakira. Shakur 6Z, mais comment je prononce ça? Je ne sais pas. Je vais l'appeler Shakira, je ne sais pas comment on prononce. Merci Shakira pour le soutien. Bon, ok, Tipsy qui régale, qui est parti en mode. Tu l'as piqué. Shakira, piqué. Nix, je valide. Tipsy qui offre 5 abonnements à la communauté. Eoma de lutte, je prononce bien, j'espère. Merci pour ton prime. Juju pour ton 10e mois. Koa Machala pour ton prime. Seiya Ru Ryuki, 25e mois, merci. Géo, merci. Latot, je t'ai remercié tout à l'heure, je ne sais plus. Merci pour le 35e mois. Kirigana, Jano, les 2 abonnements à la commune, je crois que j'y suis. Et Clackboom à l'instant pour le soutien. Vous êtes incroyable. Ah oui, Shakira, piqué, pas mal, pas mal. Ça se prononce Shakur comme Tupac? Ah oui. Avec le 6? Ok. Ok, bon, bah alors merci Chaco. Slash Shakira. Merci Aizen pour le Prime. Ça rime avec Heineken. Ça me tombe bien par un d'alcool tout à l'heure. 6Z, c'est 60, Samuel. 6-0. Ah, donc chaque course 60? Chaque course. Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Chaque course 60, il vient de l'Oise? Ok. Putain, ça y est, mais grâce à vous, ça décrypte les pseudos, vous êtes incroyable. Donc chaque course 60? Ok. Mais Shakira, c'était bien en vrai. Whenever, wherever, together. Hein? Tupac vient de l'Oise? Je croyais que c'était la West Coast. Oui, mais l'Oise, c'est à l'Ouest. Aussi. T'es perdu, il te faut une clim. Ouais, je sais, je sais. J'ai un ventilo là. Je sais, je sais. Oui, mais c'est l'Ouest par rapport à Strasbourg, je veux dire. Oh, c'est la West Coast. Serviteur, la West Coast. Hein? Vous êtes. Et oui, ça trouve des jeux de mots sans arrêt ici. Ça fait des tweets incroyables comme celui que vous avez fait tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qui devient celui-là? 833 likes. Voilà, c'est vous. Vous avez tout cassé. C'est vous, ça. Question pour un champion en plus haut sur France 3, malgré ce qu'on a réannoncé en quotidienne. C'est votre dernier mot, point d'interrogation. C'est vous qui l'avez créé. Celui-là, vous êtes des monstres. Vous avez créé un monstre. Les gens sont en train de rire sur Internet. Vous êtes des animateurs. Hein. Vous êtes des comment on appelait les, des, vous êtes des ménestrels. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des ménestrels. Bravo. On est 3500 ici, il manque 2500 likes, me dit que la machine is back. Ok, intéressant, t'en as qu'un. Bon, des saltimbanques, exactement. Vous êtes des pirouetteurs, vous êtes des amuseurs publics, vous êtes des. Hein? Tout à fait. Vous êtes des bardes. T'inquiète, mon Louis, ne t'inquiète pas, tout va bien, garde tes sous. Pourquoi supprimer des programmes qui fonctionnent? Triple casque. Je vais te le dire. Pourquoi supprimer des programmes qui fonctionnent? Je vais te le dire, triple casque. Je vais te le dire les yeux dans les yeux, parce qu'ici, on dit les termes. Je vais te le dire. Pourquoi supprimer un programme qui fonctionne? Je vais te le dire, triple casque. Je n'en ai pas la moindre idée. On dit les termes ici. Mais arrête le Philippin, garde tes sous, bordel. Allez, on y va? Merci Cartophène. Petite revue de presse. C'est parti? On va parler de la chaleur. Caliente. On y va. Oh! Attendez, j'ai un flash là. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Et si en août, je prenais la route, je fais un tour de France en courant et je fais signer la pétition à tous les gens que je croise. Avec une petite charrette, question pour un champion. Le fou du bus. Le fou du bus. Le Forrest Gump de la culture générale. Avec la poussette. Et je stream! Avec les la qui klaxonne. Ouais, question pour un champion! Vas-y, Julien! Vas-y, Julien, on est avec toi! Hein? Hein? Le fou du bus. Et je vais sur les plages. Chouchou, beignet, n'oublie pas de signer la pétition. Hein? Ça se baigne. Alors, je sens que mon épouse va super valider. On avait prévu de passer tout le mois d'août à Paris en bossant, mais en étant cool, les petits dîners, tout. Hein? Ça va pas valider ça. Avec un Joe en minibus derrière. Avec le Bob, bien sûr, avec le Bob Twitch. Hein? Et avec Joe en minibus. Là-dedans, il y en a là-dedans. Il part, hein, imagine, là, on est, je pars de, tu vois, au moins, je traverse la France, tu vois, je fais un Paris-Marseille, par exemple, tu vois, voilà, je pars de Paris, tu vois, je pars de Paris, je suis tout seul, et ben, imagine, scène Forrest Gump, j'arrive à Marseille, les médias en ont parlé, il y a eu une prise de conscience, j'arrive à Marseille, vous savez combien on est? Et ben, je suis toujours tout seul, parce qu'en fait, personne n'a rien à foutre, il fait super chaud, et je suis tout seul à courir comme un con, hein? Hein, je vois bien le truc là. Mais chaque course, j'ai arrêté le café, je suis obligé. Chaque course me dit arrête de boire de la Red Bull. J'ai arrêté le café. Donc du coup, je tiens au Coca Zéro et au Red Bull. J'ai dormi 3 heures cette nuit. J'ai pas le choix. T'imagines, hein, Tour de France, hein, je cours des milliers de kilomètres, hein, et genre je prends 17 signatures. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai bossé tard hier soir. Bon, allez. La canicule. Let's go. Pourquoi la France est mal préparée? Hein, c'est la question, un petit peu. Donc, je vous rappelle les infos. Mardi, mercredi, longue vague de chaleur extrême. 16 départements en vigilance rouge. 5, 68 départements orange. À part dans le nord-ouest, il fait super chaud, quoi. Ça va, le son? Quelqu'un me dit que c'est peut-être un petit peu faible. Vous me dites, hein, s'ils sont OK. Conséquences sur les écoles, fermées. Il y a une centrale nucléaire qui a dû arrêter un de ses réacteurs. Bon, il y a des conséquences économiques et la conséquence sur la santé aussi. On va essayer de comprendre tout ça. On va aller page 6 à 8. C'est OK pour le son? Bah attendez, ça sonne à la porte là. Ne bougez pas. Excusez-moi, la porte a sonné. La porte a sonné. Personne ne sonne jamais ici. Personne n'a l'adresse déjà. Et puis je ne reçois personne, enfin, sauf quand je fais des streams, quoi. Et donc, très intrigué, je suis allé voir. Et là, vous allez être surpris. Donc, ça sonne. Personne ne sonne jamais. Donc, je vais voir. Voilà. J'ouvre. Une jeune femme. Et devinez ce que me dit la jeune femme? Merci la kilo du 21 pour le prime. Merci Fauve-touille pour le 44e mois. Merci Cartophène. Devinez. Non, c'était pas Shakira. Non, c'est pas quelqu'un de France Télévisions. Non, c'est pas l'URSSAF. Non, c'est pas Julien. Non, c'est pas quelqu'un qui dit tu veux voir ma bite. Non. C'est pas connaissez-vous Jésus, non. Non. La dame me regarde et me dit, désolé, c'est une erreur, je voulais aller voir votre voisin. Voilà. J'ai une vie incroyable. Incroyable. Alors, lisons. La France s'apprête à subir le pic d'une très longue vague de chaleur avec 16 départements placés en vigilance rouge par son intensité, sa précocité. Cet épisode met en lumière les faiblesses de l'adaptation de la France. Ah, les faiblesses de l'adaptation de la France. Lisons, bon, bon, je vous passe les chiffres, il fait chaud, ça vous l'avez, hein, ok, les départements en vigilance. Au final, on a quand même 88% des Français de métropole qui vivent dans des départements sous surveillance en raison de la chaleur, quoi. La ministre de la Transition écologique dit c'est du jamais vu en matière d'étendue du pays concerné. Merci Ken, c'est faux, mais c'est gentil. Par exemple, en 2019, il n'y a eu que 81 départements seulement en vigilance orange. Donc, canicule remarquable par son caractère précoce et très très tôt hein, dans l'été, et ça a duré au moins 15 jours, dit Mathieu Sorel, joli, joli nom, Sorel, qui est un climatologue à Météo France. Voilà. Rappelant que la vague de chaleur de 76, qui est la plus longue de l'histoire des relevés météo, avait duré 14 jours. Donc, on est sur un truc historique, quand même. Hein. C'est pas juste, il fait chaud, quoi. C'est la 50e vague de chaleur depuis 1947, depuis que les relevés existent. la 33e depuis le début du 21e siècle, donc une accélération. Hein. Et la France va donc affronter deux journées extrêmes, avec des 36-40, des pics à 41, et la température qui baisse pas des masses la nuit, mais tout ça, vous le savez, vous le vivez. Alors, du côté du politique, du gouvernement, on s'inquiète. On s'inquiète. Lundi soir, pour la deuxième soirée de suite, une cellule de crise s'est réunie place Beauvau. Place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur. En présence des représentants des cabinets des ministres de l'Intérieur, des Transports, de la Santé, de l'Éducation nationale ou encore de la transition écologique. Voilà. Quoi. Qui me harcèle de messages, de trucs? Laissez-moi tranquille. Je fais la revue de presse. Le ministère de la Transition écologique a mis en place un centre interministériel de veille opérationnelle et d'alerte qui fait remonter les infos sur les transports, les logements, les infrastructures énergétiques, etc. Alors, les conséquences de cet épisode, vous n'allez pas sans conséquences, c'est pas juste il fait chaud. Hein. Les conséquences sont déjà nombreuses. 1350 écoles publiques sur les 45 000 partiellement ou totalement fermées mardi. On est presque sur du... Ah, c'est que 1350, j'aurais dit plus, moi, d'accord. Voilà, donc ça, c'est pour les écoles publiques. Beaucoup d'écoles qui sont fermées. De nombreuses écoles qui ont conseillé aux parents de garder leurs enfants chez eux quand ils le pouvaient. Lundi, une centrale nucléaire dans le Tarn-et-Garonne, Gueulfèche, je ne connais pas celle-là, annonçait avoir mis dimanche soir à l'arrêt l'un de ses réacteurs en raison de la température de la Garonne qui devrait atteindre 28 degrés. Hein, l'eau n'est pas assez froide pour refroidir le réacteur. Grand classique. Voilà. Attends, laisse-moi vérifier un truc. Ok, c'est bon. Waouh, le sommet du Mont Blanc a enregistré des températures positives. On est en positif en haut du Mont Blanc, quoi. Ce qui n'arrive d'habitude qu'au cœur des étés chauds. Alors, du coup, la sécheresse gagne du terrain, pas de surprise. 26 départements lundi étaient en vigilance sécheresse, 10 au niveau de crise, avec donc des restrictions importantes pour l'utilisation de l'eau. De plus en plus de cours d'eau sont asséchés, par exemple dans l'est de la France. L'état des nappes inquiète les autorités, notamment dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Ah, merci beaucoup, Ketakada. C'est pas que l'eau, merci beaucoup. C'est pas que l'eau est assez froide, merci, j'ai dit une bêtise. Comme je suis pas ingénieur en nucléaire, c'est que, contrairement à mon beau-frère, que j'adore, c'est que l'eau qui ressort de la centrale est trop chaude par rapport aux normes sur la vie aquatique. Merci beaucoup. Vous êtes plusieurs à me corriger. Voilà, l'info 2.0. Merci beaucoup. Vous êtes top. C'est l'eau rejetée qui est trop chaude. C'est pour ne pas chauffer la rivière et impacter le vivant. Yes! Merci beaucoup. Ça, j'aime ça. Merci beaucoup pour avoir corrigé, précisé cette info. Et merci à cet énorme raid du Japon, les amis. Voilà, un raid exporté du Japon par l'ami Citron Violet, qui est un Français qui vit au Japon et qui nous régale de stream IRL. Voilà, merci pour ce très gros raid. Merci les motos d'avoir épinglé la chaîne de Citron Violet. C'est une chaîne à suivre. Le Crous m'écrit « Bonjour à tous, j'ai un problème avec un voisin. Il jette à plusieurs reprises des canettes de soda. » Par la fenêtre, je retrouve tout en bas. J'ai voulu lui en parler. Il m'a clairement dit qu'il n'avait rien à foutre. Que dois-je faire s'il continue? Écoute, le Crous, t'es déjà venu sonner tout à l'heure à la porte là. Je t'ai dit que j'avais pas que ça à faire. Hein, je suis en pleine revue de presse. Les canettes, parfois je les jette. Je fais pas trop attention où. Écoute. Déjà tu les ranges parce que c'est un bordel dans la cour en bas et on peut plus y mettre un pied. Tu vas me ranger cette courette déjà. Si t'as le temps de monter sonner chez moi, c'est que t'as le temps de ranger la courette. Et puis je vais faire attention. Oh, on peut plus. Sponsorisez-moi Red Bull, bordel, c'est pas possible ça. Salut Brocoli. Revenons à nos moutons, qui doivent avoir bien chaud en ce moment. Merci pour la correction sur la centrale nucléaire, bande de beaux gosses. Voilà. Inquiétude également sur les incendies. On va vers un été compliqué. Les tensions commencent à pointer dans le massif des Corbières. Le risque de départ de feu est très préoccupant. Sécheresse des sols, tout ça. Allez, pollution à l'ozone, let's go! La vague de chaleur s'accompagne d'un épisode de pollution intense à l'ozone. Sugar, bon télétravail. Une vaste partie du territoire est touchée. À Paris, le préfet de police a activé la circulation différenciée pour la journée du mardi 1er juillet, en interdisant la circulation des véhicules critère 3 dans 77 communes. Voilà. Ok, et avec des vitesses autorisées à baisser. L'exposition à l'ozone sera responsable, selon Santé publique France, de près de 500 décès par an en France. On me dit qu'il y a un pic aussi à Lyon, me dit Hard Rock Gamer. Et avec le réchauffement climatique, les épisodes de pollution à l'ozone sont de plus en plus précoces et répandus sur tout le territoire. Alors, constat de ce qui se passe, constat des conséquences. Cet épisode illustre une nouvelle fois le niveau de résilience, mais aussi les faiblesses de l'adaptation de notre pays, la France. Merci Nomad pour le 12e mois. À ces phénomènes, présenté en mars, le troisième plan national d'adaptation au changement climatique, revient un petit article, a permis de prendre un premier arrêté, renforçant les obligations des employeurs publics et privés pour protéger les travailleurs lors des canicules. Mais les 52 mesures de ce plan n'ont pas encore eu le temps d'être mises en œuvre, tout comme le vaste plan de rénovation thermique des écoles qui avait été annoncé par le président de la République en 2024 et qui exige des investissements colossaux de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Alors que depuis des mois, écrit Le Monde ce matin, l'extrême droite et la droite multiplient les attaques contre la transition écologique sous les yeux plutôt passifs du bloc central. Vous savez qu'il y a plutôt un retour en arrière sur les législations environnementales en France depuis quelques mois. Marine Le Pen, la chef de file du RN, a réclamé lundi un grand plan d'équipement pour la climatisation, tandis que l'opposition de gauche, elle, dénonce l'improvisation du gouvernement. Ils sont un peu durs, hein. Nous apprenons dans l'article que François Bayrou surveille de très très près la courbe des températures avec un thermomètre qui a été installé à Matignon. Donc là, je vous trouve un petit peu sévère. Nous sommes face à un effort d'adaptation colossal. Nous accusons un retard à l'allumage qui n'est pas la seule responsabilité d'État, mais aussi des communes, des départements, des régions, estime un sénateur écologiste qui s'appelle Ronan Dantec. Mais cela ne pourra se faire qu'en investissement, en imposant des normes, ce qu'une partie du personnel politique rejette en ce moment. Lors des récentes coupes budgétaires, le gouvernement a sabré le fonds vert, enveloppe qui aide notamment les communes à s'adapter. Voilà. J'en ai pour 2,5 millions d'euros pour rénover deux écoles maternelles et je vais obtenir 150 000 euros du fonds vert, dit un élu, le maire de Bure-sur-Yvette dans l'Essonne. Comment je fais ? Et on a aussi un article d'une géographe qui dit « On a une stratégie qui n'est pas robuste » et qui ne bénéficie pas d'assez de moyens. On va peut-être dire ça aussi, je vous lis d'abord. Je remonte dans le chat. Lolo me dit qu'il faut investir dans beaucoup de choses, mais il y a de moins en moins d'argent et la dette augmente. Dilemme. Tu m'étonnes. Lisons peut-être ce que dit cette géographe là. Regardez. Dans la salle de classe de ma petite en primaire, il fait quasi 30 degrés, me dit Pépère Dudu. La maîtresse est obligée de vaporiser de l'eau sur les élèves pour qu'ils supportent la chaleur. C'est fou ça. Que dit cette dame qui s'appelle Magali Regezazit, qui est une géographe. Le Monde demande à cette chercheuse si la France est assez préparée face aux vagues de chaleur. Elle dit la population, les élus ont de plus en plus conscience que même en vivant dans un pays riche, on ne sera pas épargné par la crise climatique. Mais on n'est pas prêt. Le Haut Conseil pour le climat le dit depuis 2020, l'écart entre ce qu'il faudrait faire et la vitesse à laquelle progresse le changement climatique se creuse d'année en année. Donc la réponse est non. Le plan national d'adaptation au changement climatique est insuffisant. On n'a ni une stratégie suffisamment robuste, ni assez de moyens. Elle prend l'exemple de la santé publique. L'importante surmortalité lors des vagues de chaleur ne peut qu'augmenter, avec des conséquences de plus en plus lourdes sur la santé physique et mentale. Pour inverser cette tendance, il y a une grande marche à franchir. Je pense qu'elle parle d'investissement. Elle parle des écoles pas assez protégées, par exemple, de nombreux établissements scolaires qui sont de véritables bouilloires thermiques. Voilà. De la protection des travailleurs en extérieur. Et le monde lui demande également, mais alors comment? Comment? C'est bien de dire ce qui ne va pas, mais c'est toujours intéressant de voir quelles sont les solutions. Comment mieux adapter les villes? Je trouve ça assez intéressant. Il existe déjà de nombreuses solutions, dit-elle, qu'il faut amplifier par des mesures plus structurelles. Il s'agit de lancer un vaste plan de rénovation thermique des bâtiments, okay, rénovation thermique des bâtiments, de végétaliser, de peindre les surfaces en blanc, hein, qui reflètent, réfléchit plutôt les rayons du soleil, ou encore de faire circuler de l'eau quand c'est possible. La grande question est de passer d'une logique de rafraîchissement, ventilateur, brumisateur, à une logique de refroidissement. L'idée n'est pas que chacun s'équipe avec un climatiseur, dit-elle, ce qui revient à de la maladaptation, étant donné que ces équipements consomment de l'eau, de l'énergie, des ressources de plus en plus rares et chères dans un climat qui se réchauffe. Dans les villes, on peut par exemple envisager avoir une pièce réfrigérée dans chaque immeuble, avec une production de froid au niveau du bâtiment, grâce au réseau de froid et aux pompes à chaleur, auxquels s'ajouteraient des lieux refuges dans les mairies ou d'autres espaces de la ville. Ouais. Okay. Au-delà des bâtiments, il faut adapter les transports publics, les réseaux d'électricité, d'eau, d'assainissement. Quoi, il y a eu un bip? Ah, j'ai pas eu de bip. Vous avez eu un bip? Il y a eu un bip chez moi? C'est quoi? On essaie de me pirater? On essaie de me faire taire? Ah oui, je l'ai pas eu. Sur le stream? Une notif? Ah, je l'ai pas. Très fort? C'est fini, c'est terminé? Ah, notification de mon iPad peut-être, ouais. Ouais. Ou alors je suis surveillé. Ou alors on cherche à me faire taire. Par rapport au Tour de France, tout ça. Nous sachons. Comment financer l'adaptation? Parce qu'évidemment, on vient de se rendre compte que le problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'urgent est de réorienter les investissements et les dépenses vers les solutions bas carbone, qui sont encore trop allouées aux énergies fossiles et à la maladaptation. Cela relève d'arbitrage politique. Il s'agit aussi de revoir les systèmes d'indemnisation aux risques climatiques, qui sont insuffisants pour lesquels nous avons besoin d'un débat de société. Dans tous les cas, l'action contre le changement climatique coûte toujours moins cher que l'inaction. Et les bénéfices de l'adaptation sont nombreux pour la santé, pour la qualité de vie, pour l'alimentation ou la précarité énergétique. Ok. N'empêche, on est un pays riche, me dit Daku Dizo, et on galère à suivre le réchauffement climatique. J'imagine pas le reste du monde comment ils réagissent. C'est vrai. Ok. Intéressant, hein, ce dossier dans le monde. Bon, voilà. Tout le monde maintenant, peu ou prou, a compris qu'il y avait il y a un Samuel Etienne dans ma game Valo, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est marrant, on m'a déjà dit ça, ouais. Il y a des faux Samuel Etienne sur Valo. C'est des Samuel Etienne radiants. Donc forcément, tout de suite, vous voyez que c'est pas le vrai, mais du coup. À ce moment, il y a ouais, faux joie et tout, je pensais jouer avec toi et c'était pas toi. C'est marrant. Quelle star, quelle vedette. Vous êtes vachement nombreux, merci. Hein. Dans quelques années, me dit Doomer, on créera des zones climatisées. C'est un petit peu ce que disait la personne, là, géographe. Et des hôtels ou lieux où on dormira dans des capsules climatisées comme au Japon. Et encore au mieux, à mon avis, ça va être plus chaotique. Ouais. Le Sidou dit le but donc c'est de nous cloîtrer tous dans une pièce réfrigérée dans un immeuble génial. Ouais, c'est clair. C'est pas fou. Hein. C'est pas fou. C'est clair. On y reviendra, à mon avis. Quelque chose me dit que on sera amené dans ces dernières, ces prochaines années, ces prochaines décennies, à reparler un petit peu du changement climatique. Enfin, sauf avec la personne qui nous disait tout à l'heure, arrêtez de vous plaindre, moi quand j'étais jeune, il faisait chaud aussi, on se plaignait pas. Hein. Donc là, je pense que c'est perdu. Qu'est-ce qu'on a après ? On va parler de la clim. Dossier de Libération sur la clim. Tu n'as rien loupé. MMG, c'est parti. La clim, c'est la une de Libé. La clim, j'ai un froid. Bravo Libé. Un quart des foyers français. Quoi ? Mais c'est énorme. Kitagawa fait péter ta blague. Un quart des foyers français ? Quoi ? Bon là, je suis surpris. J'y crois pas du tout. Lolo, toi aussi. Un quart, 25%. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils comptent. Ah, ils comptent peut-être les clims portables, les petits trucs là. On va aller voir ça. On va voir ce chiffre. On va voir ce chiffre. Kitagawa nous pose une question. Que dit un escargot quand il croise une limace? On a fait une pause blague. Kitagawa, c'est le roi des blagues. Que dit un escargot quand il croise une limace? Je sais pas, ça farte, non? Ça glisse? Il dit quoi? Quand ça... oh, un nudiste? C'est ça la réponse? TSDF? C'est quoi la réponse? C'est quoi la blague? Kitagawa, vas-y, fais péter. Oh la belle décapotable? On est foutu. Et c'est sur cette génération-là qu'on compte pour payer les cotisations retraite. On est foutu. Merci Kitagawa. Contresens. Édito de Paul Quignot qui écrit souvent de bons éditos. Le matin, à l'heure d'aller au boulot, un vrai bonheur, ce wagon bien climatisé. À midi pour déjeuner, elle est où? Déjà la brasserie où il fait bon. Les courses, trop cool d'arpenter les rayons du supermarché de long en large pendant des plombs. La salle de ciné, pas mal non plus. Sans parler de cette vie au travail, évidemment, beaucoup plus supportable dans des bureaux climatisés. Bref, que celui ou celle qui n'a pas cherché depuis 48 heures, assommé par la chaleur, un moment de répit dans un endroit climatisé, lève le doigt. Moi, j'aime le chaud. Prenons le pari que c'est même arrivé au meilleur des militants des écolos, voire à Sandrine Rousseau qui ne mériterait pas pour autant de réciter en public trois patères et deux chartres de l'ADEME. Pas plus que ces Français qui se précipitent en ce moment comme à chaque canicule chez un frigoriste ne méritent d'être recouverts de goudron. Marine Le Pen et Éric Ciotti, en revanche, la leader d'extrême droite et son petit cousin sudiste n'ont en effet pas trouvé mieux que de réclamer un plan de climatisation globale pour les administrations, les écoles, les hôpitaux, les particuliers. Le sondage nous dit que 76% des gens n'ont pas la clim, 24% l'ont. Donc, étonnamment, le sondage chat confirme l'info de Libé. Ok. Donc, Marine Le Pen et Éric Ciotti ont réclamé un plan de climatisation globale pour les administrations, les écoles, les hôpitaux, les particuliers. Au nom, bien sûr, de ce fameux bon sens qui ne s'embarrasse pas d'aucune complexité ou de contradiction. Si la climatisation de certains lieux stratégiques ou collectifs restera encore pour de nombreuses années la solution, en faire un horizon indépassable pour mieux traverser les épisodes caniculaires à répétition qui se profilent est un contresens. Pourquoi c'est un contresens ? Plus de clim, c'est plus de réchauffement climatique, donc plus de canicule. Marine Le Pen et Éric Ciotti mordent en réalité à pleines dents la queue du serpent qui, année après année, fait s'ouvrir de plus en plus de Français, et d'abord les plus modestes qu'ils prétendent défendre. Au-delà des bêtises de cette doublette d'extrême droite, cette ruée vers la clim à l'occasion de cette canicule précoce est un révélateur grandeur nature du retard pris dans l'adaptation au réchauffement. Il devrait nous inciter à regarder loin devant pour trouver des solutions, mais il est plus facile de regarder dans le rétro de la clim. Bon, ça c'est l'avis de Paul Quignot qui dit « La clim n'est pas une solution. » Nous, on va essayer de voir tous les arguments pour nous faire notre propre avis. On peut valider cet édito ou pas. Hein, ça, continuons à nous informer. On lira un autre article dans le Figaro qui n'est pas tout à fait d'accord tout à l'heure avec cette analyse. Alors, lisons. Quelles sont les infos qu'on pourrait trouver ? 25% tout pile, c'est incroyable. On les fait exprès ou quoi ? Oui, j'ai vu Amiral. J'ai vu pour le sous-marin. Qu'est-ce que ça raconte? Déjà, ça dit que dans certaines régions, sud-est, sud-ouest, Corse aussi, l'installation est devenue quasiment automatique. Hein, de clim. En revanche, il y a encore des régions comme l'Est, les régions de l'Est, et aussi de l'Île-de-France, qui jusque-là n'avaient pas ce réflexe de l'équipement de la clim, quoi. Dans les régions du sud-est, du sud-ouest et de la Corse, on est sur du quasi 50% d'installation chez les ménages. Accélération encouragée par Marine Le Pen et son allié Éric Ciotti, les deux élus d'extrême droite ont réclamé lundi un grand plan pour la climatisation. Les chiffres. En 2020, 25% des ménages français étaient équipés de la clim. Voilà. Bon, je suppose qu'effectivement, ils doivent compter aussi les clims mobiles. Contre 14% en 2016. Ce sont les chiffres de l'ADEME, l'Agence de transition écologique. Ouais. On estime que d'ici à 2050, le taux d'équipement des Français devrait être de 55%. Pour l'installation de cet équipement auparavant considéré comme un produit de luxe, le SNEFCA, soit le syndicat de la profession, donne une fourchette de prix située entre 4 000 et 15 000 euros pour une maison d'environ 100 mètres carrés, montant qui varie selon l'isolation du bâti et la technologie employée. À l'heure actuelle, le taux d'équipement de la France est bien inférieur à ses voisins européens, notamment évidemment l'Europe du Sud, où il y a une culture de la climatisation. En Italie, on est sur du 50%. Un foyer sur deux est équipé. Voilà. Mais ceux qui occupent le podium se trouvent hors du continent. Chine, beaucoup de clim en Chine. Ça, je savais pas ça. États-Unis, bon, ça, on savait. Japon, les trois pays concentrent à eux seuls les deux tiers des systèmes de climatisation de la planète. Aux États-Unis, plus de 90% des foyers disposent, par exemple, de l'air conditionné. Les States. Voilà, y a Bunket qui dit « Ben voyons, beaucoup de clim en Chine !» Et puis, tu as THMZ qui nous dit qu'il revient de Chine et nous dit « Tout est climatisé, je vous laisse parler entre vous. » Mais j'ai envie de croire la personne qui revient de Chine. Aux États-Unis, plus de 90% des foyers disposent, par exemple, de l'air conditionné. Voilà. Au milieu du siècle prochain, ce seront 5,6 milliards de climatiseurs qui seront installés contre 2 milliards aujourd'hui. Voilà. L'utilisation de ces appareils représente d'ores et déjà 10% de la consommation électrique planétaire. La clim, c'est 10% de la consommation électrique planétaire. Merci Gauthier. Pour autant, écrit Libération, même si ces installations sont dans certains cas inévitables pour les publics les plus fragiles, l'erreur à ne pas faire est de multiplier leurs installations au rythme des canicules sans se poser la question sur leurs effets négatifs sur l'environnement. Libé dit, attention, dans certains cas, c'est vraiment utile, hein. Inévitable, notamment les publics les plus fragiles. Mais Vincent Viguet, qui est chercheur en économie, dit, attention quand même aux effets négatifs. Leur utilisation à considérer, l'exemple même de ce qu'on appelle la maladaptation. En voulant s'adapter au réchauffement climatique, on aggrave le problème, c'est l'effet boule de neige. Boule de neige, alors qu'il fait de plus en plus chaud. Je dis, où on est, où on va. Assénant elle aussi que la climatisation est une maladaptation, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, tout à l'heure quelqu'un en début de stream me disait « Qu'est-ce que tu penses de ce que dit la ministre ?» Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Et donc là, j'apprends que mardi, elle a appelé à climatiser pour les personnes vulnérables. Voilà. Mais pas partout, au risque de réchauffer. Pour le coup, on n'est pas du tout sur la même ligne que Marine Le Pen. D'ailleurs, sur le plateau de BFM, elle a également raillé la proposition de Le Pen. Ceux qui parlent de grands plans de climatisation viennent de découvrir la Lune. Marine Le Pen est allée sur la Lune ? Hein ? Je comprends rien. Putain, mais abandonnez-moi sur le bord de la route, je ne comprends plus rien, quoi. Hein ? Elle est astronaute ? Alors là, on en apprend tous les jours. Bon, ceux qui parlent de grands plans de climatisation viennent de découvrir la Lune.
Ah bon ?
Bon, que. Alors qu'ils ont voté contre une loi il y a 2 semaines qui permettait de faire des réseaux de froid. Ah. Marine Tondelier, qui est la secrétaire nationale des écologistes, a ironisé elle aussi sur le programme écologique de Marine Le Pen qui se borderait à acheter des climatiseurs. Vincent Viguier, du CIRED, pointe 3 conséquences environnementales à cette tendance de fond. D'abord, le recours à la clim induit une forte demande en électricité, on vient d'en parler. Voilà. Électricité encore produite à l'aide d'énergies fossiles, dans la plupart des pays du monde, hein. Vous savez qu'en France, nous, on a beaucoup de nucléaire, émettrices de gaz à effet de serre qui vont venir exacerber la crise climatique. Donc déjà, plus de consommation énergétique, souvent produite dans la plupart des pays à travers le monde par l'énergie fossile. Bon, pas bon. Deuxième défaut, certains gaz réfrigérants indispensables au mécanisme. Normalement, le fluide est dans le climatiseur, ce qui ne pose pas de problème. Mais en cas de fuite, ça arrive, ou de mauvais recyclage, il peut s'échapper, être rejeté dans l'atmosphère. Et là, il y a danger. Même si l'utilisation de certains frigorigènes les plus nocifs pour la couche d'ozone, comme le CFC et le HCFC, ont été interdites en France pour être remplacées par les HFC, les fluides hydrofluorocarbures, comme vous le savez bien sûr, substituts moins nocifs, le chercheur souligne qu'eux aussi disposent d'un pouvoir réchauffant très puissant, des centaines de fois plus élevé que le CO2. Voilà. Enfin, troisième problème, en prélevant la chaleur à l'intérieur des bâtiments pour la rejeter vers l'extérieur, l'utilisation de la clim fait grimper localement la température extérieure, en particulier dans les villes, et décuple l'effet des îlots de chaleur. Selon une étude menée par le CIRET, si tout le monde utilisait par exemple l'air conditionné en Île-de-France, les rejets de chaleur pourraient augmenter les températures extérieures de 2 degrés. Vous vous rendez compte? T'es à 42 degrés, tu prends 44. De quoi rendre l'air encore plus irrespirable pour ceux notamment qui n'ont pas la clim. Inégalité sociale. N'utiliser les climatiseurs quelques jours par an au plus haut des pics de chaleur permettrait de limiter ces effets climatiques en cascade. Ok. On ira lire un article dans le Figaro d'une dame qui dit attention, la clim, il ne faut pas jeter la clim avec l'eau du bain, quoi. Mais oui, mais bien sûr, mais Mirk, mais merci Mirk. Voilà, enfin, un peu de bon sens. Mirk dit, arrêtez, il suffit de climatiser l'extérieur. Merci Mirk. Moi, président 2027, je climatise le pays. Pas les logements, pas les entreprises. Je climatise la France. Je demande un devis à un artisan, il y a plein de gars qui font de la clim. Je dis, monsieur Tartampion, là, bon, c'est pour un devis. Bon, pour climatiser la France. Combien de logements? Non, la France. Tu vois, j'appelle Trump, je lui dis comment t'as fait pour ta frontière, là, je sais pas quoi, avec le Mexique, là. Bon, bah, on fait un truc comme ça, là. Tu vois, on fait une espèce de dôme, quoi. Tu vois, comme Tina Turner dans Mad Max, quoi. Le Thunderdome, quoi. Voilà. Et tu demandes à l'artisan qui sera très content de travailler sur un devis, pourquoi tu climatises pas la France? Tu crées de l'emploi, t'es bien, quoi. 2027, baby. J'en ai des idées pour 2027, moi. Et oui, pourquoi on n'ouvre tout simplement pas nos réfrigérateurs dehors? Mais oui, il y en a des idées là-dedans. C'est à Singapour, me dit Johan, où peut-être l'été fait 2 degrés de plus à l'extérieur à cause de la clim, justement. À Vegas aussi. Oui, avec une immense cheminée vers l'espace. Tout à fait, la persifleuse. Et on rejette notre air chaud vers l'espace. Voilà. Exactement. On choisit une planète où il fait un peu froid, tu vois, ou une planète gelée. Là, il y a des planètes gelées. Tu fais un grand conduit, là, en inox, c'est bien l'inox, vers la planète gelée, que tu terraformes. Voilà. Après, tu fais comme le projet de Trump dans la bande de Gaza, là, tu fais une riviera sur la planète gelée, là. Vamos a la playa, c'est parti, quoi. C'est pas compliqué, en fait, comme problème. Pour devenir sérieux, Alicat me dit, et tu as raison, je pense que déjà une utilisation modérée est un grand pas. Par exemple, je suis à Montpellier, je viens d'allumer la clim mobile uniquement dans ma pièce principale pour quand j'y suis et le soir, ces fenêtres grandes ouvertes avec juste un ventilateur. Ouais. Moi, j'ai un petit ventilo sur le visage, là. On est bien. J'en ai un sur le visage, j'en ai un sous le bureau. Non, c'est pas vrai. Merci Mathis pour le 25e mois. Merci beaucoup, merci du soutien. Il y a vraiment un site Samuel Etienne 2027? Tu déconnes. Il y a un site internet Samuel Etienne 2027? Mix? Non, arrête. Non. Je l'ai pas. Si, ah. Ah si, c'est quelqu'un qui a repris mes donation goals du dernier The Event. Samuel Etienne 2027.fr. Il y a un gars qui a acheté les... Et ça renvoie sur... À 1 million, j'annonce que je me présente à la présidentielle. Il y a un site. Il y a un gars qui a acheté le site et qui va sans doute me revendre quand je me présenterai.
Merde.
Ou alors c'est un soutien, c'est un fan. Quand je vais annoncer ma prochaine candidature bientôt, là, il va m'écrire, il dit « Sam, t'inquiète, j'ai déjà le site. » J'ai pas eu les 1 million, on a fait 460 000, je crois. Ouais, je t'ai bien soulagé. Hein. Et Robobar nous dit, il faudrait surtout continuer à investir massivement dans une bonne isolation. Et tu as tellement raison, je vis dans un endroit très bien isolé, en gardant tout fermé, je n'ai pas eu besoin de clim. Tu vas avoir le temps pour te présenter en plus la semaine. Ah oui, ça c'est sûr, j'ai du temps en semaine, j'en ai là. Plein de projets. Tour de France en courant en août, présidentiel, plein de trucs. Plein de projets, moi. C'est pas gratuit l'isolation, Reskill a raison. Ça coûte très cher. Alors, allons voir le Figaro d'une dame qui dit « Attention, faut pas jeter la climatisation avec l'eau du bain. » On est Figaro page quoi ? Figaro page... Oh, j'ai chaud là, j'ai comme un petit... ça tourne la tête tellement il fait chaud. Page... si jamais je tombe dans les pommes en pleine revue de presse, vous appelez le SAMU. Hein. Pas le SAMU, moi. L'autre, celui qui sauve les gens. « Allô, le SAMU, c'est pour SAMU ?» Dites pas ça, ils vont raccrocher direct. Allô, le SAMU, c'est pour le vieux qui présente question pour un champion, là. Hein ? Mieux. Clim. Page 3. Figaro. Non, pas page 3. 19. À quelle adresse, du coup ? Ah oui. Ah ouais. Bah, contactez Joe. Normalement, Joe, vous devriez... Vous contactez Joe, il sait. Joe, il dit... vous appelez Joe et vous dites « Papy, il a fait un malaise. » Ok ? Non, mais c'est vrai qu'il fait chaud, putain. Joe knows. Vous contactez Joe en MP sur un de ses réseaux, il est super réactif. Lui, il saura. Non, pas Joe le taxi. Non, pas Vanessa Paradis. Non. Exactement, Louis Armand, tu as l'adresse. Donc, les... Qu'est-ce que nous dit cette dame ? Elle s'appelle Bertil Bayard. Alors moi, il y a un truc qui ne me va pas déjà dans l'article. Je ne sais pas qui est Bertil Bayard. Est-ce que c'est une journaliste ? Est-ce que c'est une spécialiste ? Je vois chronique, donc ça pourrait être une journaliste. Mais comme on est maniaque, eh bien, on va chercher. Voilà. Voilà. Donc, ce métier 2027, ça s'est fait. Et qui est Bertil Bayard ? Déjà, j'aime beaucoup Bertil. C'est très joli. Bertil Bayard. Bon, je pense que c'est quelqu'un sans peur et sans reproche, déjà. Même ça ne s'écrit pas comme ça. Tata, c'est qui ? Journaliste depuis plus de 20 ans, du Figaro. Donc, c'est une journaliste du Figaro. Bon, maintenant, on a l'info. C'est important de savoir qui vous parle, toujours. Parce que, imaginons que Bertil Bayard soit, bien sûr, Jolioc, j'allais faire la blague, tu m'as pré-shot la blague. Imaginons que Bertil, notre ami Bertil, soit présidente de l'Union des producteurs de climatiseurs. Hein. Que Bertil, en fait, elle est devenue millionnaire parce qu'elle a vendu de la clim, si tu veux. Bah, ça nous intéresse de savoir qui nous parle. Bon, là, c'est une journaliste, ok. Donc, voilà, on est allé voir. J'ai des camarades journalistes. Je vous lis un message. Je vous lis pas qui c'est parce que c'est très sympa. C'est un mec sympa. Salut Samuel, tu n'as pas envie de venir dans mon émission pour faire monter un peu la pression ? Je me dis que c'est maintenant que ça se joue et qu'après, blablabla. Donc voilà, on me propose de venir dans les émissions de télé pour mettre la pression. Eh les gars, c'est pas une croisade. Hein. ils ont pris une mauvaise décision, ils sont assez grands pour s'en rendre compte eux-mêmes. Je vais pas faire le tour des plateaux pour fâcher tout le monde, hein. C'est pas une guerre non plus, hein. Voilà. Sérieux, moi j'ai du valo à faire, j'ai des trucs, hein. Il y a du gaming aussi dans ma vie, hein. Non, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce que dit Bertie? Salut Sanox, bienvenue. Voilà. On va pas faire le tour, non, ça, le tour des plateaux. Non. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, je l'ai dit, bim bam. Qu'est-ce que dit cette dame? Elle parle de Phoenix dans l'Arizona. Probablement l'une des villes les plus invivables au monde. 2024, la température y a dépassé les 37,8 degrés pendant 100 jours d'affilée. Pop, 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 pop. On y meurt littéralement de chaud, littéralement. Mais on y vit aussi, et de plus en plus. Phoenix est en plein développement. C'est par exemple dans cette ville que le géant taïwanais TSMC a décidé d'implanter sa nouvelle usine géante de fabricateurs de semi-conducteurs. De fabrication de semi-conducteurs, pardon. La tranquillité sismique de la zone, également épargnée par les tornades, la rend attractive malgré sa chaleur brûlante pour un projet à plusieurs dizaines de milliards de dollars. La population vit l'été essentiellement à l'intérieur dans un univers climatisé. C'est après tout le propre de l'humanité que de surmonter l'hostilité de son environnement et d'imaginer des solutions qui permettront la vie et l'amélioreront. Face à la chaleur, la climatisation est une évidence aux États-Unis, au Moyen-Orient, dans les pays asiatiques les plus développés. Ça n'est pas le cas en Europe, au nord parce qu'on n'en avait pas besoin, au sud parce qu'on n'en avait pas les moyens. Le réchauffement climatique change la donne, nous dit la dame. Avec l'apparition de vagues de chaleur plus intenses, plus précoces, plus fréquentes, comme cette chape de plomb qui recouvre la France depuis plusieurs jours. Assurer la fraîcheur à un maximum de citoyens n'est plus un luxe accessoire, rendu superflu parce qu'utile quelques jours par an seulement. Ce devient au contraire un enjeu de santé publique, à tout le moins un objectif de confort moderne qui sied à la 7e puissance économique mondiale. C'est nous, ça. Et pourtant, dit cette dame, il y a un tabou sur la climatisation en France. Quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure, ça. Je t'ai lu, mon ami. Diabolisés au nom d'arguments qui ne sont pas, ou plus, dit-elle, tous fondés. La clim consomme de l'électricité, mais en France, elle ne participe pas aux émissions de carbone. Ah oui, parce qu'on a une énergie qui est nucléaire, c'est ce qu'elle va nous dire la dame, quoi. Les pointes de consommation qu'elle peut provoquer en été peuvent être absorbées par notre système électrique, ce qui est vrai. D'autant mieux qu'il intègre maintenant une part significative de photovoltaïque. Elle parle pas du nucléaire? Bon, bah, y a le nucléaire aussi. C'est vrai qu'on a une énergie qui est très décarbonée en France, grâce au nucléaire. Elle utilise des fluides réfrigérants nocifs, la clim. En effet, dit-elle, sauf que la réglementation a beaucoup fait progresser les matériels et limiter les risques de fuite. Ce qui est vrai aussi. Enfin, elle contribue à réchauffer l'air extérieur. Donc elle prend quand même tous les arguments, ok. Ce qui, en zone urbaine dense, renforce l'effet d'îlot de chaleur. De ce fait, la climatisation n'est pas forcément la meilleure solution dans les grandes villes, dit-elle, où les réseaux de froid sont plus adaptés ou dans les zones où la géothermie peut être développée. Donc elle est pas, elle ne nie pas les problèmes posés par la climat. Mais, dit-elle, elle dit, la climatisation doit faire preuve de l'éventail des solutions. Un maire qui vient d'achever la rénovation d'une école et d'un gymnase en convient, dans le soutien technique à ses projets apportés par les services de l'État, on lui a parlé isolation extérieure, géothermie, confort d'été, ventilation naturelle, mais jamais climatisation, ni même pompe à chaleur réversible. La logique de refroidissement était absente de la discussion, dit-elle. Le logiciel des pouvoirs publics et des administrations est bloqué sur les seuls objectifs pertinents de sobriété énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique. Il faut y ajouter un objectif de confort, dit-elle. Il a du reste fait son apparition dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique lancé par Christophe Béchu, publié par Agnès Pannier-Runacher en mars dernier, qui envisage une France à 4 degrés de plus, ce qui est très fort. Ce plan envisage également... En effet, la climatisation dans les lieux qui accueillent les personnes vulnérables ou encore dans les transports publics. Mais dans les têtes, la révolution reste à opérer. On ne peut se satisfaire, dit-elle, de règles qui n'imposent qu'une seule pièce froide pour les EHPAD, ce qui est la loi aujourd'hui. On ne peut pas satisfaire que nos écoles, nos universités, nos hôpitaux ne soient pas entièrement ou en partie tempérés, alors que tous les bâtiments privés, les commerces, les bureaux, les hôtels qui le peuvent sont bel et bien climatisés. L'approche doctrinaire, qui consiste par avance à évacuer la solution de la climatisation, n'est pas acceptable. Cela crée une hypocrisie d'atmosphère, Un écartèlement entre des débats théoriques sur les méfaits de la climatisation et une réalité qui saute aux yeux. On va au bureau parce qu'il est climatisé, on se rue au cinéma, on réserve au restaurant en posant la question d'abord, les municipalités affichent la liste des locaux climatisés qu'elles ouvrent au public, les ventes de climatisateurs mobiles explosent. Ces réalités parallèles étaient apparues au grand jour l'an dernier au village olympique quand les délégations d'athlètes avaient demandé des climatiseurs mobiles pour les installer dans leur appartement. Clim ou pas clim, clim ou pas clim, ça n'est pas un clivage idéologique, dit-elle. Il faut pouvoir poser sereinement et au cas par cas les termes du débat, arbitrer en termes d'euros dépensés, de carbone émis, de degrés gagnés pour proposer de véritables solutions. L'adaptation est la clé politique face au changement climatique, la jonction entre deux réalités angoissantes, un réchauffement contre lequel il faut lutter, mais qui donne à chacun le sentiment que ses efforts sont considérables pour un impact lilliputien. Et le spectacle du branle-bas des cellules de crise, des distributions de bouteilles d'eau, des consignes d'hydratation, dont le bruit paraît proportionnel au sentiment d'impuissance. Un enjeu planétaire de long terme, une réalité immédiate et déjà tangible. Entre les deux, il y a une politique de la qualité de vie à construire. Pas si mal son point de vue, finalement. Elle essaye d'être un peu mesurée, quand même. À l'inverse, il y a Tenten qui m'envoie un message qui me dit « Les gens qui disent que pour lutter contre le chaos, il faut plus de clim me rappellent Donald Trump qui, pour lutter contre les massacres à armes à feu dans les écoles, a armé les profs. » Je vous lis. Je vous lis. Elle dit pas que c'est la solution, elle dit qu'il faut pas totalement l'écarter, quoi. Notamment pour le confort et notamment des plus fragiles, quoi. Elle parle des hôpitaux, des écoles, tout ça. Des news du prix au saumon en kilo chez Carrefour? Non, Golden Ananas. Mais je suis le dossier. Tel le journaliste d'investigation que vous savez que je suis. Ici, ça vise le Pulitzer. Hein. Dakodi, c'est pas trop convaincu. Hein, le truc de on doit considérer le confort aussi, bof, bof. Me dis-tu. Louis, la daube, le fameux. Nous dit, salut mon Louis, la clim utilisée intelligemment est bénéfique selon moi. La première priorité, c'est de bien isoler les logements et d'avoir les bons gestes, ouvrir les fenêtres la nuit, fermer les volets, etc. Mais pourquoi ça vibre? Mon téléphone, il vibre tout le temps, mais il ne met pas de message. C'est dingue, ça. Ah, j'ai des SMS. Ah, encore un magazine télé qui me demande si je veux... J'ai un magazine télé qui me dit... Vous n'avez pas encore pris. Très bon, je vous lis, hein. Je cite pas les gens. Hein. Très triste pour celui. Très triste pour ce qui se passe avec Question pour un champion. Vous n'avez pas encore pris la parole dans la presse. Je n'ai donné aucune interview, c'est vrai. Je voulais donc savoir si vous étiez disposé à nous répondre cordialement. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne vais pas faire la tournée des plateaux. Hein? Si les gens veulent se mobiliser pour sauver cette émission, qu'ils le fassent. Mais moi, j'ai fait ma part. Ils me veulent. Oui, ça veut. Mais oui, je vais pas partir. J'ai quand même fait un call assez comment dire indépendant vis-à-vis de la direction de France Télévisions. Je suis pas sûr qu'ils s'attendaient à ce que je sois aussi clair dans ma prise de position. Je vais pas aller faire la tournée des Grands Ducs pour redire ce que j'ai déjà dit, quoi. Salut mon défécateur, tu vas bien? ce que dit Manon aussi, hein. La clim est une bonne chose, mais il faut juste aussi l'avoir, savoir l'utiliser correctement, ne pas la faire tourner toute la journée, ne pas descendre trop bas. Hein, surtout si possible, utiliser d'autres solutions avant, volets fermés, fenêtres ouvertes la nuit, etc. Bien sûr, bien sûr. Merci Jérôme pour la citation. Il faut faire évoluer les mentalités, me dit Zombinou, j'ai deux gîtes, je vois le nombre de personnes qui mettent la clim à 18 degrés l'été en mettant des pulls. C'est vrai que c'est. Et qui mettent le chauffage à 24 l'hiver en se mettant en t-shirt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est pas possible ça. Tu as raison. Tout à fait. Merci Drakeos pour le raid. Drakeos, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message. Je manque de temps pour y répondre, mais j'ai bien vu ton message. Merci Drakeos, merci à ses viewers. Drakeos, qui est un confrère streamer qui est également passionné d'actualité. Merci mon Drakeos pour ce très gentil raid. Je suis sûr que vous avez parlé de la chaleur et de la clim ce matin. Hola, ¿qué tal? Hombre. Je reçois enfin ma clim, dit Drakeos qui participe au débat. Oui, interview d'un député, j'ai vu, ouais. Je suis passé sur le live, j'ai vu que tu as interviewé un député, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Bon, voilà pour la clim ce matin. Merci. Waouh, d'être aussi nombreux, et notamment avec le renfort de Drakeos à l'instant, ça fait plaisir. Je vois que vous avez plus confiance dans. Enfin, vous intéressez plus. À mes histoires d'actualité qu'à mon gameplay. Hein. Mais c'est un peu normal. Israël. Le monde. Page 2. Let's go. En Israël, débat sur la faillite morale de l'armée, des témoignages de soldats recueillis par le quotidien israélien Haaretz ont provoqué une onde de choc. De quoi s'agit-il? C'est un papier de l'envoyé spécial à Tel Aviv du Monde, Isabelle Mandro. Merci, Cristal. Pardon. Ça, c'est un hôpital palestinien, ça. À l'hôpital Al-Aouda de Nousserrat, après des tirs israéliens sur un point de distribution d'aide alimentaire dans la bande de Gaza le 24 juin. C'est un des trucs qui est évoqué dans ce papier. Lisons ce reportage. En quête de nourriture. En quête de nourriture, des milliers de personnes tentent chaque jour désespérément d'approcher l'un des quatre centres de distribution alimentaire ouverts par la controversée Gaza Humanitarian Foundation avec le soutien d'Israël et des États-Unis dans l'enclave depuis fin mai. Alors déjà, ça, c'est extrêmement controversé, la manière dont cette initiative israélo-américaine distribue de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Et chaque jour ou presque, des Gazaouis y perdent la vie. À quel moment tu perds la vie en allant chercher de l'aide humanitaire pour te nourrir et ou nourrir ta famille? En moins d'un mois, 19 incidents impliquant des tirs de l'armée israélienne ont été recensés, provoquant la mort de 549 Palestiniens et en blessant 4000 autres, selon un bilan établi le 24 juin par le ministère de la Santé du Hamas et corroboré par l'ONU. Dans un long article paru le 27 juin, le journal israélien Haaretz a recueilli le témoignage accablant de soldats et d'officiers israéliens chargés de la sécurité de ces centres. Et tous, sous le couvert de l'anonymat, décrivent des scènes passibles de crimes de guerre. Là où j'étais posté, raconte un soldat, entre une et cinq personnes étaient tuées chaque jour. Elles sont traitées comme des forces hostiles. Pas de mesures de contrôle des foules, pas de gaz lacrymogène, juste des tirs à balles réelles, avec tout ce qu'il est possible d'imaginer, raconte ce soldat. Mitrailleuse lourde, lance-grenade, mortier. Puis une fois le centre ouvert, les tirs cessent et les Gazaouis savent qu'ils peuvent s'approcher. Notre moyen de communication, dit ce soldat, c'est la fusillade. Souvent désorientée par des consignes contradictoires qu'on lui donne aux abords de centre, la foule s'y précipite bien avant l'ouverture, parfois même la nuit, sans toujours discerner les corridors attribués. Travailler avec une population civile alors que le... C'est quoi ton message, Muchamp, là ? Ici, on aime rire de tout, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment de, d'écrire ce genre de phrase ? Est-ce que tu es d'accord que ton propos est déplacé ? On vient de parler des centaines de morts palestiniens dans les centres de distribution de l'aide humanitaire. Est-ce que tu es d'accord que... Ouais, le CAPA n'existe pas, n'excuse pas tout. Muchamp, est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire que ton commentaire était... était à éviter. T'es ok ? Bon, Françoise, non. Il a jamais pris de Théo, le garçon. C'est pour ça qu'on est en train de discuter. Bon, il y a eu un petit Théo de 600 secondes, mais... Hein ? Ok, bon. T'as pris 600 secondes. Mais en vrai, pas du mot là-dessus, les gars. Pas du mot là-dessus. Hein ? Allez, on continue. C'était pas lui, le Théo ? Ah bon ? Ah non, c'est un autre, pardon. C'est clac, clac, boum. Pardon. C'est quelqu'un d'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, le clac-clac-boom ? Attends. Je vais aller voir. Petit plaisir. J'ai la meilleure équipe de Moodle du monde, de toute façon. Fais voir. Mon petit plaisir. Qu'est-ce qu'il a dit, mon clac-clac ? Alors. Oh putain. Ouais, bon, ok. Bon, calmons-nous. Bah ben non, plutôt, il le taclait plutôt, non. J'ai l'impression qu'il validait pas trop la blague, justement, non. Non. Hein. J'ai l'impression qu'il taclait plutôt le trait d'humour, là, non. Non. Bah ben ouais. Bon. Je pense qu'on peut enlever le Théo. Hein ? Je pense qu'on peut enlever le Théo. Parce que pour le coup... Allez, on continue. Et apaisons-nous les amis. Bon, dès qu'on parle du Proche-Orient, imagine, tu vas prendre un Théo, on ne critique pas les modos ici. Jamais. Voilà. C'est un travail extrêmement difficile sur l'actualité. Le moindre propos critique négatif sur les modos, c'est, ça dégage. Ok ? C'est un travail extrêmement compliqué. On parle de Proche-Orient limite tous les jours et d'autres sujets éminemment complexes. J'ai les meilleurs modérateurs du monde. Ils ont un mérite incroyable à faire ce qu'ils font. Donc, la moindre critique des modos ici, ça dégage. Ok. Ok, Pilo. Attention, hein. Ça va partir en low kick, high kick, middle kick. Hein. On continue. C'est marrant, hein, le Proche-Orient, à chaque fois, ça met le feu. C'est normal en même temps. Donc, souvent désorientée par les consignes contradictoires qu'on lui donne aux abords de ses centres, la foule s'y précipite bien avant l'ouverture, parfois même la nuit, sans toujours discerner les corridors attribués. Travailler avec une population civile alors que le seul moyen d'interaction est d'ouvrir le feu est pour le moins problématique, déplore un officier israélien. Il n'est ni éthique, ni moralement acceptable que des personnes soient obligées d'atteindre une zone humanitaire sous le feu des chars, des snipers et des obus mortiers. Et c'est un officier israélien qui le dit. N'oubliez pas que la population israélienne n'est pas un bloc unique. Hein, et que les Israéliens ne sont pas tous à 100% derrière le gouvernement Netanyahou. Ces témoignages, en tout cas, ont provoqué une onde de choc rarissime en Israël sur la faillite morale de l'armée, contraignant le gouvernement à réagir le soir même. Dans un communiqué commun publié, le Premier ministre Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz, qui est un ministre d'extrême droite, ont nié catégoriquement, donc ils disent que c'est faux, les récits publiés qualifiés de mensonges malveillants visant à diffamer l'armée la plus morale du monde. Le ministère de la Défense a également laissé entendre que la procureure générale militaire
responsable des enquêtes disciplinaires, avait saisi le mécanisme d'évaluation des faits chargé de mener des enquêtes préliminaires et qu'elle allait rapidement tirer les leçons de cette mission. Le Monde nous dit « La parole de ces soldats a jeté une lumière crue sur des pratiques que la société israélienne ne peut pas ou ne veut pas voir. » Selon le directeur exécutif de Breaking the Silence, qui est une association fondée par des vétérans israéliens afin de sensibiliser l'opinion publique à la situation dans les territoires occupés, les forces israéliennes ont deux doctrines à Gaza. La première, d'Aïa, prône un usage disproportionné de la force lors de représailles contre des zones civiles servant de base à des attaques. La seconde est zéro victime parmi nos soldats. Vous voyez qu'au sein même de la société israélienne, vous avez des gens qui dénoncent tout ça, et parfois depuis très longtemps, depuis 2004. L'atmosphère, poursuit-il, reste la même que lors de la guerre de Gaza de 2014, mais depuis le 7 octobre 2023, les attentats du Hamas, les forces israéliennes sont hors des clous. Ce monsieur en veut pour preuve le nombre sans précédent de victimes civiles, la majorité des plus de 56 000 morts dénombrés par le ministre de la Santé de Gaza, chiffre jugé fiable par les organisations internationales. Avant, dit-il, quand l'armée voulait tuer une cible, elle visait la bonne personne, même si les dommages pouvaient aller bien au-delà. Mais aujourd'hui, nous constatons, à travers les témoignages que nous recueillons, c'est un ancien militaire israélien qui parle, que pour atteindre un chauffeur de camion censé être lié au Hamas, on peut tuer jusqu'à plusieurs dizaines de personnes. Et ajoute-t-il, il n'y a jamais de sanctions. La destruction systématique des habitations fait aussi partie des pratiques hors les clous mises en avant par l'ONG. Vous combattez dans le territoire le plus peuplé de la région et vous faites comme si c'était le désert du Sinaï. Après avoir envoyé des ordres d'évacuation par SMS ou par tract, les forces israéliennes traitent Gaza comme un champ de tir ouvert. Excusez-moi, je regarde un historique. Quelqu'un affirme que je fais de la propagande ici en rapportant ces propos d'Israéliens qui dénoncent ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je te propose d'appeler ces Israéliens et de leur dire qu'ils font de la propagande contre Israël et contre le gouvernement Netanyahou. Je pense que c'est un petit peu ton analyse, quoi. Ok, c'est intéressant. Même quand ça vient des Israéliens eux-mêmes, certains arrivent à remettre en cause ça. Comment vous faites ça en fait à un moment? Comment ça fonctionne comment fonctionne cette analyse en fait? C'est des Palestiniens déguisés, comment vous fonctionnez en fait? Comment vous analysez ça en fait? Je serais intéressé de voir. De comprendre en fait. Elle est où la propagande là? D'Israéliens qui dénoncent eux-mêmes ce que fait l'armée israélienne. Bon, je vois que j'ai pas de réponse. Je continue. Posez-vous les bonnes questions à un moment, les gars. Un constat que partage Sami Cohen, auteur de l'essai Tuer ou laisser vivre, Israël est la morale de la guerre. Encore un Israélien, a priori. Les règles d'engagement rédigées par l'état-major, explique ce spécialiste de sciences politiques, sont communiquées oralement aux unités sur le terrain. De fait, chaque commandant, dont l'objectif prioritaire est de protéger ses soldats, élabore ses propres règles. Dans certaines zones dites stériles, de vraies kill zones, ces derniers autorisent l'ouverture du feu sans sommation sur chaque civil qui s'approche, ce qui est contraire au droit international et au code éthique de l'armée. C'est un chercheur israélien qui le dit. Avant le 7 octobre, relève encore cet expert, détruire un immeuble nécessitait l'autorisation du chef d'état-major. Désormais, un commandant de division ou de brigade peut en décider. On leur laisse cette liberté parce que pour la première fois, l'armée a déployé 300 000 réservistes, en plus des unités régulières. Et oui, on peut être chercheur en sciences sociales, Belfrugi, il y a Belfrugi dans le chat qui découvre qu'on peut être chercheur en sciences sociales et pas uniquement en sciences dures, physiques et autres, quoi. Bon, je pense que c'est une banalité de le dire, mais je viens d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Et j'en suis très heureux et j'en suis très fier. Donc, l'armée a déployé 300 000 réservistes en plus des unités régulières et le chef d'état-major ne peut pas tout contrôler. Cette liberté est complètement folle, dit ce chercheur israélien. Ce n'est plus tuer ou laisser vivre, c'est tuer tout court. Ancienne chef adjointe du corps de renseignement de combat. Donc, on est avec une Israélienne, une ancienne militaire. Miri Eysin est l'une des premières femmes à avoir atteint le grade de colonel dans l'armée israélienne. Aujourd'hui chercheuse et enseignante sur les questions militaires à l'université Reichmann, encore une chercheuse en sciences sociales, incroyable. Elle met en avant, cette Israélienne, une guerre horrible qui ne peut être critiquée selon elle sans prendre en compte le contexte. Contre le type de modus operandi du Hamas du 7 octobre, nous n'avons pas de bonne réponse, dit-elle. Personne n'en a. Il n'y a aucune règle d'engagement international lorsqu'il s'agit d'un État contre un acteur non étatique. Chaque pays, la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, définit différemment ce qu'est le terrorisme. Nous ne sommes pas meilleurs ou pires que les autres. Bon, elle essaie de défendre un petit peu Israël. La seule question qui importe est, est-ce que nous faisons ici, est-il légal ? Or, légal ne veut pas dire moral. Bon. Elle se réfugie vers les ordres officiels. Les forces israéliennes n'ont pas pour instruction de tirer sur des civils. Ignorant qu'ils le font. Sur le terrain, des figures de l'armée sont pourtant mises en cause, rapporte Le Monde, tel le général de brigade Yehuda Vache, commandant de la division 252, déjà soupçonné d'exaction dans le corridor de Netzarim et décrit comme un idéologue, un officier messianique. Le politique ne doit pas imposer à l'armée des missions illégales, dénoncent Tammy Kerner et Pnina Charvit Baruch, deux chercheuses israéliennes à l'Institut pour les études et la sécurité nationale à Tel Aviv, alors que l'inquiétude de l'opinion publique quant à la résilience de la démocratie israélienne se concentre sur les évolutions politiques internes, la mise en œuvre d'actions illégales et contraires à l'éthique contre les Palestiniens de Gaza constitue une menace tout aussi grave pour l'identité démocratique et juive d'Israël. Et ce sont deux Israéliennes qui le disent. Les coups rencontrés par l'enquête d'Haaretz, y compris sur le plan international, ne semblent cependant pas avoir produit d'effet. Lundi, la défense civile palestinienne a annoncé la mort de 22 personnes après des tirs de l'armée israélienne près de points de distribution d'aide dans le centre et dans le sud de Gaza. Voilà. Bon. Ici, je vous le dis, dès que je trouve un article intéressant, que je trouve pertinent sur le sujet, je le lis pour que vous n'ayez pas l'impression que les médias, en tout cas les médias que je lis, oublient ce sujet. Petit message de ma petite sœur. Je vous lis. C'est un vieil article ? Oui, c'est un article daté du mercredi 2 juillet. Donc effectivement, il est assez ancien. 2025. C'est-à-dire qu'il a littéralement quelques heures. Je vous lis. Hein. Bon, sachez, de toute façon, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, et si vous avez vraiment beaucoup de temps à perdre, c'est un sujet qu'on évoque presque tous les jours depuis des mois sur cette chaîne, et vous avez littéralement des heures et des heures et des heures de replay, et d'articles, et de débats, et de commentaires dans le chat pour poncer un petit peu ce sujet et essayer de le comprendre. Voilà. Mais il faut un petit peu de temps, comme sur tous les sujets complexes d'ailleurs, ce qui est bien un ennemi, je le sais. On y reviendra, évidemment. De quoi est-ce que j'ai quelque chose de plus léger ce matin? Pas sûr. Si, j'en ai, mais est-ce que c'est ce qui suit? Donc on a parlé du monde. Et maintenant, on va aller. Oh, on va en Italie. On va en Italie. Alors, je m'hydrate là parce que l'idée, on va parler d'immigration. Voilà, ça va encore crier. Avec quel article? Figaro? Non. Les Échos. Hop, Madame Meloni, secrétaire. Pas secrétaire. Comment on dit en Italie? Présidente du Conseil, l'équivalent du Premier ministre. Véritable chef de l'exécutif, puisque en fait, la figure du président de la République telle qu'il existe en France n'existe pas en Italie. Quoi. Donc c'est la patronne. Voilà. Donc Meloni, c'est une élue d'extrême droite. Enfin, il y a un débat là-dessus, parce que les gens de l'extrême droite disaient « Ah non, c'est pas l'extrême droite, c'est la droite, blablabla. » Bon. De droite dure, d'extrême droite. Ancien passé, quand elle était jeune, vous allez me dire qu'on a le droit de changer, auprès des jeunesses mussoliniennes. Bon, on est... On est très à droite. Et donc, a priori, avec un regard assez fermé et cash sur les questions d'immigration. Hein. Bon. Et pourtant, on apprend dans Le Monde que Mme Meloni ouvre les portes à 500 000 travailleurs étrangers supplémentaires en Italie. 500 000, c'est beaucoup. En 5 ans, la coalition des droites aura fait venir près de 1 million de travailleurs extra-communautaires pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Correspondance d'Olivier Tosseri pour Les Échos depuis Rome. Giorgia Meloni a résolument placé son action sous le signe du pragmatisme. Voilà. Donc à gauche, si ça vient de Musso. Ah oui, la fameuse extrême droite de gauche. Merci, Volkil. Giorgia Meloni a résolument placé son action sous le signe du pragmatisme. Ah, c'est des gens qui disent. Ah oui, c'est les gens qui nous expliquent que le nazisme est un mouvement de gauche parce que les nazis, à l'origine, c'était le NSDAP. Et dans NSDAP, il y a le S de socialiste. C'est les mêmes. Et qui vous expliquent que, parce qu'ils ont lu un peu vite leur cours d'histoire, au fond de la classe, là près du radiateur, que du coup, c'était les nazistes et les socialistes. Bon, bah. Après, il faut reprendre les livres d'histoire. Donc, je reprends. Giorgia Meloni a résolument placé son action sous le signe du pragmatisme. Lorsqu'elle était dans l'opposition, elle promettait d'instaurer un blocus naval. Des côtes nord-africaines, il n'y a pas de lien. Blocus naval. On est sûr. Voilà, on met des bateaux pour empêcher les immigrés de venir en Italie. Quoi. Au pouvoir depuis 2022, ça c'est ce qu'elle promettait quand elle était dans l'opposition. Au pouvoir depuis 2022, la première ministre italienne sera la chef du gouvernement qui aura permis l'entrée du plus grand nombre de travailleurs étrangers en Italie. De blocus naval à... C'est moi qui ai le record pour faire venir le nombre de travailleurs étrangers en Italie. C'est intéressant. Un nouveau décret triennal sur les flux migratoires qui a été signé cette semaine autorise près de 500 000 nouvelles entrées entre 2026 et 2028. Elles s'ajouteront aux 450 000 permis de travail déjà délivrés entre 2023 et 2025. Alors que la rhétorique de la coalition des droites au pouvoir continue de fustiger l'immigration, les besoins du marché du travail auront donc contraint l'exécutif italien à accueillir près d'un million de travailleurs extra-communautaires au cours de cette actuelle législature. Le gouvernement Meloni présente ce décret sur les flux migratoires comme un mécanisme d'immigration légale et contrôlée, argument que reprennent certains de le chat. Oui, mais ce sont des travailleurs. Oui, mais donc c'est pas de l'immigration illégale. Oui, on vous lit. Pour garantir la main-d'œuvre indispensable au système économique national. Des quotas sont donc prévus pour renforcer le nombre de travailleurs saisonniers dans les secteurs agricoles et touristiques, mais aussi pour combler les besoins croissants d'aide aux personnes âgées pour une population italienne toujours plus vieillissante. Donc là, il y a les chiffres sur les entrées. Voilà. Cet afflux de migrants réguliers est salué par les milieux économiques. Voilà. La Confindustria, le patronat, ne cesse de pointer le manque criant de main-d'œuvre en Italie. Extra-communautaire, c'est hors Europe ou Europe compris? Extra communautaire, c'est hors Europe. Bah, sinon, c'est intra-communautaire. Donc, les patrons sont très contents. Voilà, selon le patronat, d'ici à 2028, le pays aurait besoin d'1,3 million de travailleurs supplémentaires pour le simple fonctionnement des activités de production. Sachant qu'il en manque déjà 2,5 millions. Mais effectivement, on est sur une immigration vraiment axée sur le travail, quoi. Sur ces chiffres-là. Ce sont des permis de travail qui sont délivrés, quoi. Mais c'est un peu paradoxal pour un gouvernement de droite slash extrême droite, quoi. Salut mon Hugo, tu vas bien? Je vous lis, je vous lis. Il y a FBI qui dit les... J'arrive Hugo. FBI qui dit les clims ne vont pas s'installer toutes seules. Il y a Hugo qui vient d'arriver comme ça en chill en détente, qui prend son abonnement pour lui et qui offre, mesdames et messieurs, 20 abonnements à la communauté, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, pas 10, pas 11, pas 12, pas 13, pas 14, pas 15, pas 16, 17, 18 ou 19, mais 20 abonnements à la communauté, merci. Comme un gigantesque coup de clim dans ce studio d'un coup, merci. Merci Hugo. J'espère que tu vas bien. Gros signal, c'est ballot ça. La droite qui fait son beurre sur la peur de l'autre, la défense culturelle, la xénophobie, mais qui en a besoin absolu pour faire tourner l'économie. Tché, hypocrisie de plus, nous dis-tu. Mais pas 21. Si, 21, parce qu'il en a pris un pour lui en plus. Donc 21. On fait aller, j'ai commandé Buffalo Rille. Quelle heure il est? Ah putain, c'est vrai que c'est l'heure. Alors, Don't Care dit c'est pas paradoxal pour un gouvernement d'extrême droite ou de droite, puisqu'ils sont libéraux et ont besoin de main-d'œuvre servile et pas chère pour faire fonctionner leur économie libérale, c'est logique. Sauf que la même Mélanie dans l'opposition avait dit que ce serait zéro immigration. Donc c'est ça en fait. C'est que qu'un gouvernement de droite, d'extrême droite, aille dans le sens des patrons pour faire venir des travailleurs immigrés pour faire tourner l'économie n'est pas une surprise en soi. Mais la politique, c'est annoncer des choses et ensuite les faire. Et dans l'opposition, Mélanie a dit zéro immigration, blocus naval. Donc le travail aussi d'information, c'est de mettre les politiques devant leurs contradictions. Le blocus naval, non, elle n'a pas fait du coup. Le café rhétorique. Je connais ça, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'il fait chaud? Putain, vous avez chaud? Ça me dit quelque chose. C'est Klimovic? Ah. Ça s'appelle le café rhétorique? Mais c'est plusieurs fois par semaine? Je savais que ça me disait quelque chose. C'est plusieurs fois par semaine. C'est à 16h? Mais c'était pas le matin avant? Ah, je suis perdu. Mais c'était pas en fin de matinée avant? Pourquoi c'est à 16h? Vous avez déjà fité ensemble? Oui, j'étais à côté de lui au dernier The Event. Le pauvre, il n'en pouvait plus. J'ai hurlé pendant 3 jours. Il pouvait plus. Il pouvait. Il, je crois que. Je crois que. Je crois que. Il m'a détesté. J'ai hurlé pendant 3 jours pour faire monter les cagnottes et je crois que il n'en pouvait plus, le pauvre. En fait, mes cris repassaient dans son micro sur son stream, quoi. Le pauvre, le pauvre, le pauvre. Ah oui, normalement, c'est le matin, mais là, c'est l'après-midi. D'accord, ok. C'est très bien ce qu'il fait, Clément. C'est super qu'il soit sur Twitch. Ensuite, on va revenir en France. Après l'Italie, je vous parle de quoi? Pop, 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 pop. Donc ça, c'était les échos. Les échos 5, 6, je vous parle de quoi? Je vous parle de... On parle de... Ah! L'alcool, le tabac. Intéressant, ça. C'est une opinion, c'est une prise d'opinion. C'est page 29 dans Le Monde. C'est une dame, je crois. Elle est en colère. Et elle est en colère et dit qu'il faudrait plus lutter contre l'alcool en France. Dernier The Event, il y a presque déjà un an, le temps passe trop vite. Ouais, t'as raison. C'est dans Le Monde? Ouais, c'est page 29. Let's go. Non, t'entendais pas trop? Ah merci, moyen bof. Oh, tiens. Je m'en voulais tellement. Oui, pitié, on a trop normalisé l'alcool. Where is The Event 2025? Bah, je sais pas, je pense que Zera va... Zera va bientôt communiquer là-dessus, je pense. Hein. On approche. C'est le ventilo, là, ça m'enrhume. Alors, page quoi? 29. Peux-tu te moucher? Merci. Non. Va-t'en, Madame Scar, si tu es éternuophobe. J'ai rien à moucher, il n'y a rien dans mon pif, c'est juste que c'est le ventilo. Va-t'en, va-t'en. Va sur un stream où personne n'éternue. 29. Tabac et alcool, un incompréhensible, dit-elle, deux poids deux mesures. Nathalie Braffman. Toujours la même question. Qui est Nathalie Braffman? Ça n'est pas indiqué. Est-ce que c'est une chercheuse? Est-ce que c'est une journaliste? Est-ce que c'est... Ah, donc ça, tout de suite, on check. Premier réflexe. Je pense que c'est une journaliste, mais il faut vérifier. Comme pour Bertie du Figaro tout à l'heure. Nathalie Braffman. Ah, je l'ai. Je pense que c'est une journaliste, mais... Ah, voilà. Si c'est le PDG de Cristaline, Desmond Mine, tu vois, ça nous pose problème. Journaliste, service... Sciences médecine, chef du service société, journaliste, ok. C'est une journaliste du journal Le Monde, spécialiste des questions société et santé. Ok, tout va bien, ça n'est pas la PDG de Cristaline. Tabac et alcool, un incompréhensible deux poids des mesures. Les pouvoirs publics assument leur lutte anti-cigarette en France, il n'y a pas de problème. Voilà, mais n'ont jamais soutenu, ne serait-ce que le Dry January. C'est vrai que les autorités n'ont jamais soutenu, par exemple, le Dry January, et on dit que c'est... en raison de la pression des lobbies liés à l'alcool. Ouais. Soyland, je ne sais pas si je t'ai remercié, merci beaucoup. Augmentation régulière du prix du paquet, lieu sans tabac, introduction du paquet neutre, avertissement de nocivité, interdiction des arômes et additifs, remboursement des substituts nicotiniques, moi sans tabac, les dispositions de lutte contre le tabagisme se sont succédées depuis l'entrée en vigueur de la loi Veil en 76 et 15 ans plus tard de la loi Evin en 91. Le premier texte posait en principe l'autorisation de fumer dans les lieux publics, sauf là où c'est interdit. Le second ne visait plus seulement à protéger les fumeurs d'eux-mêmes, mais aussi à préserver leur entourage. La règle est devenue l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Ce dimanche 29 juin, un pas de plus a même été franchi, puisqu'un décret publié la veille au journal officiel interdit, on en a parlé ici, la cigarette, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur les plages, dans les parcs, dans les jardins publics, les équipements sportifs, les abribus, aux abords des établissements scolaires, bibliothèques, piscines, à l'extérieur, hein, à côté, stades, installations sportives, je ne sais pas si vous le saviez. Ces types de lieux s'ajoutent aux 7200 endroits déjà concernés par les interdictions de fumer. Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître, a résumé la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, plaidant que la liberté de fumer s'arrête là où commence le droit des enfants à respirer un air pur. Bon, je pense que personne ne pourra s'opposer à ça. Voilà, donc, la journaliste rappelle que sur le tabac, régulièrement, de nouvelles mesures sont prises pour faire reculer le tabagisme, qui a notamment un coût incroyable pour le système de santé français, pour les fumeurs et pour ceux et pour les voisins. Et le tabagisme continue de reculer en France, d'ailleurs, notamment chez les jeunes. Et la journaliste dit « Impossible de ne pas voir qu'à l'inverse, les politiques publiques en matière de consommation d'alcool sont au minimum bien moins ambitieuses, voire très limitées aujourd'hui encore. Rien ne peut pourtant justifier ce deux poids deux mesures. Certes, la consommation des Français diminue depuis les années 60, mais la France figure toujours parmi les pays de l'Organisation de coopération, bref, l'OCDE, où on boit le plus avec... Ah ouais ! La France ! 10 litres 35 d'alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans. Voilà. Et encore, on ne compte pas les moins de 15 ans, hein, selon la dernière enquête de l'OFDT. Pourtant, l'alcool est tout aussi dangereux pour les consommateurs. Deuxième cause évitable de mortalité par cancer, il est responsable de 28 000 nouveaux cas de cette maladie et de 41 000 décès par an, dont 30 000 chez les hommes. Le coût social, 102 milliards d'euros. C'est énorme. C'est aussi, on l'oublie souvent, un motif majeur de violence du quotidien. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives estime que l'alcool est impliqué dans 30 à 40% des cas de condamnation pour violence. 10 litres par an, ils ont dû oublier pas mal de monde. Je crois que tu as oublié un adjectif. 10 litres d'alcool pur par an. Donc je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine qu'une bière qui a 4-5 degrés, bah, c'est 4-5 degrés de la contenance d'une bière. Pur, ce serait si ta bière était à 100% d'alcool, quoi. Voilà. Comme le dit Pascal, ça fait par exemple 80 litres de vin. Ça fait combien de bières par an? Je sais pas, je te laisse calculer. On la vit beaucoup. L'état, la connaissance de la science ne laisse place à aucune ambiguïté. La consommation d'alcool entraîne des risques, même à faible dose. Pour les limiter, un repère de consommation à moindre risque a été défini. 2 verres par jour, et pas tous les jours, d'après les scientifiques, c'est un repère de consommation à moindre risque. 2 verres par jour, pas tous les jours. Voilà. Et Don Blaster me dit, j'ai taffé en clinique psy, j'ai vu des choses, du 2 litres de vodka par jour, du cancer du pancréas, du foie. Médecins, addictologues, acteurs de terrain réclament depuis des années une vraie politique de santé publique. Les pouvoirs publics financent le mois sans tabac, mais sous la pression du lobby viticole, près de 550 000 emplois directs et indirects en France... ils n'ont jamais soutenu ne serait-ce que le Dry January, le fameux janvier sobre, depuis son lancement en France en 2020. Les pouvoirs publics n'ont jamais soutenu ça. Des croyances aussi ont la vie dure, une consommation modérée serait sans risque, ou encore tous les alcools ne se vaudraient pas. Le vin, alcool le plus consommé en France, serait moins dangereux que les alcools forts. Ainsi, lorsqu'en 2018, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, ose déclarer que le vin est un alcool comme les autres, pop, 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 qu'est-ce qu'elle avait dit ? L'assimilant aux alcools forts, le président Macron monte au créneau en répondant « Moi, je bois du vin le midi et le soir. » Il y a un sondage. Ça boit pas beaucoup dans le chat. Hein. Est-ce que tu bois de l'alcool tous les jours ? 1%. Plus de 3 fois par semaine, 7% seulement. Une fois par semaine, 18% seulement. Une fois par mois, 30%. Jamais, 42%. Moi, je suis où là-dedans, moi ? Tous les jours, non. 3 fois par semaine, non. Une fois par semaine, oui. En général, je bois une bière par semaine. J'ouvre le lundi et elle me fait la semaine. Voilà. Bon, un peu trop de bulles à la fin, mais... Donc, je suis dans les 21%. C'est des petits vieux, ça. Papy avec sa bière. Une fois, une par semaine. Voilà. Ça n'a pas toujours été ça, hein ? La Bretagne, ça vous gagne. Donc, Agnès Buzyn dit le vin et l'alcool comme les autres. Réaction de Macron à l'époque. Moi, je bois du vin le midi et le soir. Et annonce que tant qu'il sera président, il n'y aura pas d'amendement pour durcir la loi Evin. 5 ans plus tard, alors qu'il vient d'être nommé ministre de la Santé, Aurélien Rousseau échoue à faire augmenter les taxes sur l'alcool à des fins de prévention. En novembre 2024, donc il n'y a pas très longtemps, les sénateurs ont débattu d'une série d'amendements visant à accroître la taxation sur l'alcool. De la thune, le budget... On a besoin d'argent, taxons l'alcool. Eh ben, c'est pas passé. Les enjeux économiques sont supérieurs aux enjeux sanitaires, avait regretté la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Et en vrai, ça ferait de la thune en plus. Ça ferait de la thune. Michael Nassila, qui est président de la Société française d'alcoolologie, directeur du groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances de l'Institut national de la santé, blablabla, le répète inlassablement, il nous faut d'urgence un plan alcool. Un plan alcool, c'est pas t'envoies un pote remplir un caddie plein de binous et de whisky pour se faire péter le caisson tout le week-end. Hein. Un plan alcool. Non, un plan alcool pour limiter. C'est pas un bon plan alcool. Il nous faut d'urgence un plan alcool pour faire de la prévention, donner une bonne information aux consommateurs et dire la vérité, l'alcool tue. Point. Voilà. J'ai totalement arrêté l'alcool il y a au moins 15 ans, ça ne manque absolument pas à Iron Deal. Moi aussi j'ai arrêté l'alcool. Enfin bon, j'ai une bière, j'ai ma petite bière hebdo. Hélène ne boit pas. Ça, c'est l'amour, ça. Donc quand j'ai rencontré Hélène, moi je buvais encore un peu. Je pense que je buvais ma petite bière par jour, hein, ou mon verre de vin, petit apéro même de temps en temps. Et puis ben tu ne bois pas seul. Ma lubilule, j'ai la ref. Tu ne bois pas seul, c'est triste. Donc j'ai arrêté. Tu bois quoi comme bière? Ce qu'il y a. Non, je sais pas, je connais rien. Tu ne bois pas, mais tu bois quand même. Une bière par semaine, je bois. Bien sûr, je bois. Sinon, c'est de l'alcoolisme mondain. Ah bah moi, je n'ai pas de vie sociale, donc ça risque pas de picoler. C'est beau l'amour, c'est beau l'amour. Merci Gigazil pour le prime. J'ai arrêté l'alcool depuis mon projet Progress. Pardon, grossesse, me dit Koraki. Depuis, j'y arrive plus, j'aime plus mon bébé à 16 mois. Citation de George Best, qui était un footballeur incroyable britannique, qui était aussi bon sur le terrain qu'il avait une vie dissolue. Hanby nous rappelle, en 1969, disait George Best, qui était un gars incroyable, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Je vous rappelle la phrase, il faut prendre le temps, elle est incroyable. George Best disait, il passait toutes ses soirées au pub après le match. En 69, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Célèbre citation. Lyoc me dit à propos de George Best, il disait aussi qu'il habitait à 5 minutes de la plage, mais qu'il n'avait jamais vu la mer parce qu'il y avait un bar sur le chemin. Ah là 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 là, quel bonheur! Non, bah, exutoire, je ne le savais pas, ça. Je l'avais pas aussi, cette ref. J'adore! J'habite à 5 minutes de la plage, mais j'ai jamais vu la mer parce qu'il y a un bar sur le chemin. Ouais, encore une citation de George Best, citée par Lazareth. Tout ce que j'ai gagné, je les ai dépensés en alcool, en femmes et en voiture, et le reste, je l'ai gâché. Bye 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 bye. Là, c'était George Best. À quelle heure il est mort à quel âge George Best. Il a tenu le coup ou pas? Quelqu'un me dit qu'il est mort à 20h45. 21h23, mais il y avait du retard. Ah là là là. 59 ans. 59 ans, les gars. Georgie. Ah oui, pour une retraite, hein. Grand joueur. Infection pulmonaire. N'hésite pas, Samuel, si tu veux des fausses informations, on sera toujours là pour t'en donner. J'achète. Merci, Sodomcraft, pour ce témoignage. Incroyable. Bon, ça, on a rendu hommage à George Best. Et le sucre aussi, Kézor, un jour il faudra le même article sur le sucre. Oui, tout à fait. Mais, un jour après l'autre. J'ai chaud. Ça ne devait pas être hier la journée la plus chaude de la semaine, là? Ah, je suis content. Ah, c'est des orages qui arrivent. Putain, j'espère que mon train pour Marseille va pas être embêté, quoi, parce que j'avais bossé, moi. Alors après l'alcool, de quoi parlons-nous? Bam 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 bam, l'alcool c'était dans le monde. 6, numéro 7 maintenant. C'est carré, hein. Le matin, on lit les journaux, on prend des notes, on met les pages, des trucs. Et les numéros, en fait, c'est l'ordre des articles dans le... C'est l'ordre. Donc là, je cherche le numéro 7. Plus je vieillis, plus je mets du temps à trouver les numéros, moi. C'est comme au bingo, hein. Il est où le 7? Ah, l'emploi après 60 ans, c'est pour moi ça. Oui, j'ai arrêté le sucre. Robot, j'arrête tous les sucres, comment dire? Enfin, je sais pas comment on dit. Tous les sucres évitables, quoi. Donc je mange encore des fruits, donc fructose, j'en prends. Mais j'ai arrêté il y a de plus de 2 mois maintenant. J'ai arrêté tous les. Oui, peut-être ajouté. Donc j'ai arrêté. Je mets plus de sucre dans rien. Je prends plus de bonbons, plus de chocolat, plus de pâtisserie. J'adore les gâteaux. Red Bull aussi, de la Red Bull Light. Il n'y a pas de sucre, même si c'est pas, à mon avis, c'est pas meilleur. Mais voilà. Donc voilà, j'ai arrêté le sucre. Et ben dis donc, j'ai fondu, hein. Tu perds du poids, tu perds du poids, c'est incroyable. Ouais, alors moi, le plus dur, c'est pour les gâteaux. J'aime le gâteau. J'ai craqué. J'ai acheté en 2 mois. J'ai acheté 2 gâteaux. Je crois. Alors, le plus de glace, bonne question. Là, on va en Corse, les vacances, le plaisir, c'est les glaces. Ouais, bah, par contre, tu perds du poids, quoi. Ah, des sorbets. Ouais, mais sorbets, il y a moins de sucre, mais il y en a. Ouais, mais beaucoup ça marche bien. Ça fait fondre un petit peu. Niveau forme, non, je sens pas trop la différence. Enfin bon, je suis toujours en forme, moi. Je suis une machine. Hein. Mais en revanche, oui, j'ai perdu du gras. Hein. Ouais. Sans limiter mon alimentation par ailleurs. Je mange à ma faim comme avant. Mais c'est juste que on arrête. C'est mon petit frère qui m'a mis sur cette voie-là. Je lui ai dit, ah, je perdrais bien 2-3 kilos. Il m'a dit, bah, t'arrêtes le sucre. Mais il avait raison. Mais en tout cas, je tiens bon. Donc le matin, au petit-déj, il n'y a plus de sucre. Il y a plus, je tape pas dans les céréales des enfants. Je tape pas dans leur Nutella. Tu vois, je mange du pain, mais dans le pain, il y a un petit peu de sucre. Du pain avec du beurre. Et puis le midi, ben, pas de enfin, j'ai supprimé les desserts, en fait. J'ai supprimé les desserts. Donc du matin, le pain. Voilà. Quelle tristesse. Oui, mais non, mais. Bah, je voulais me faire un. J'ai des projets professionnels où j'ai besoin d'un body parfait, quoi. Tu vois, d'un corps un corps de rêve, un corps qui fait rêver, un corps qui, tu vois, espèce de, tu vois, un corps qui fout le feu un peu, qui fout le feu aux yeux, tu vois. J'avais besoin pour des projets professionnels. Et donc il fallait que je me bogossifie. Donc comme j'avais pas envie de faire un régime, j'ai arrêté le sucre pour perdre un petit peu tout ça là. Est-ce que ce projet pro est mon OnlyFan? Vous le verrez. Je ne dis rien. Je ne commande pas. Vous verrez. Bon, bon, pour l'instant, il y a un peu de gras en moins, mais ça n'a, le, ça, ça n'a, il n'y a rien de très impressionnant. C'est moins grassouillet, quoi. Alors, un truc pour moi, un truc sur le travail des vieux. Hop, c'est dans la croix. Bim. Ok, ça c'est pour moi ça. Ils ont trouvé un emploi après 60 ans. Le taux d'emploi des seniors en France, il est catastrophique. Hein. Très compliqué de rester sur le marché du travail passé 50, 55 et encore plus de 60 ans. Mais, malgré les préjugés, certains retrouvent du travail à la veille de leur retraite. Bon, à la veille, quelques années avant, parce que tu pars à la retraite le mardi, si tu trouves un travail le lundi, bon, je dis non. Je dis non. Reste au café. Reste au café. Un projet de loi créant un CDI senior sera examiné jeudi. Bon, a priori, ça va pas trop changer la donne. Cet article va nous permettre de nous pencher sur le taux d'emploi des seniors, qui est un vrai scandale en France, quoi. Qu'est-ce que vous avez contre les vieux, bordel? C'est fou, ça. Hein, dès que tu vieillis un petit peu, ah, on n'a plus besoin de toi, tu coûtes trop cher, puis de toute façon, tu es plus réactif comme avant. Quoi, tu bosses, tu quoi? C'est quoi ton truc, là? Du lundi au dimanche? Ah bah tu feras que le samedi dimanche, ça ira bien. Ça ira bien, et viens pas pleurer. Oh, c'est fou ça. Qu'est-ce que contre les vieux là? Les députés examinent jeudi le projet de CDI senior qui vise à augmenter le taux d'emploi des plus de 60 ans. Malgré la hausse progressive de l'âge de la retraite, ce dernier reste largement inférieur à la moyenne européenne. Voilà, on n'a pas un très. Et en plus, il ose râler. Mais oui. Mais oui. Hein. Sois content d'avoir un taf, déjà. Hein. Arrête de nous... Pas sûr, cependant, que l'entreprise joue le jeu. Il existe de nombreux freins pour que l'image des plus âgés change auprès des employeurs. Ça sent le vécu ? Non, pas du tout. Pas du tout. Un projet de loi visant à créer notamment un CDI, bon, ça on l'a déjà dit. Alors, à progresser, mais peut mieux faire. En matière d'emploi des 60 ans et plus, la France, malgré quelques avancées, demeure l'un des mauvais élèves de l'Europe. C'est ce que je vous disais, on n'est pas top, top, top pour l'emploi des seniors. Disons les choses, l'emploi des vieux. Un chiffre suffit à comprendre l'ampleur du chantier à mener. En 2023, le taux d'emploi des 60-64 ans plafonnait à 38,9%. C'est 12 points en dessous de la moyenne européenne. On est nul. On est nul pour l'emploi des vieilles peaux comme moi. Pour y remédier, les députés examinent jeudi un projet de loi qui transpose l'accord, blablabla, blablabla. Un texte qui comprend notamment un nouveau dispositif, le contrat de valorisation de l'expérience professionnelle, le CDI senior. Il est destiné aux personnes âgées de 60 ans ou plus, voire 57 ans en cas d'accord de branche, donc j'approche de tout ça. Son principe, on s'attend à un truc foufou, vous allez voir, c'est pas dingue. Hein. L'employeur qui embauche un senior pourra mettre fin au contrat dès que le salarié aura atteint l'âge de la retraite, bon, c'est normal, avec une retraite à taux plein. En contrepartie, l'entreprise sera exonérée de la contribution patronale spécifique de 30% sur l'indemnité de mise à la retraite. Voilà. Quoi, ils économisent 30% sur l'indemnité de mise à la retraite. C'est pas... Hein, Master Caillou, t'es d'accord que c'est pas ça qui va changer le truc. Hein, hein. Grumpy, j'ai eu un retour officieux, ouais. J'ai eu un retour officieux, ouais. Grumpy me dit, salut Samuel, est-ce que tu as eu un retour de la part de France Télé sur ton live de dimanche matin? Oui, quelqu'un m'a appelé pour me raconter. Quelqu'un qui connaît bien l'univers des médias, qui a pu échanger avec la personne... m'a raconté. Ils l'ont pris comment? Ils l'ont bien pris, très bien pris. Hein. Ah ouais, ouais. Ils l'ont très bien pris. Ils l'ont très bien pris. Ils l'ont pris. Ils l'ont vraiment très bien pris. Avec beaucoup de calme. Avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Beaucoup de compréhension. Beaucoup de... Très bien. Ils l'ont très... Beaucoup, voilà. Non, c'est vraiment... De façon très chill, très apaisé. Je crois qu'ils étaient même assez heureux et satisfaits de ce call, en fait. Ouais. Merci pour cette question. Bon... Donc le truc n'est pas foufou. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu? Pas sûr, écrit Lacroix. Un contrat ne changera pas la donne. Sur ce sujet, les mentalités évoluent très lentement, déplore Jean-Louis Chapelet, qui est le président de la Fédération France Senior. Voilà. Pourtant, certaines sociétés ont décidé d'accélérer. Voilà. Par exemple, il y a Bayard, qui est le groupe qui possède Lacroix, qui a rejoint la charte 50+. Le groupe L'Oréal aussi. En signant cette charte, 50+, 365 entreprises s'engagent à favoriser l'emploi des 50 ans et plus en luttant contre les stéréotypes, en facilitant les échanges intergénérationnels, en offrant des opportunités tout au long de la carrière. Bien simple. Néanmoins, les freins qu'il reste à lever pour que l'image des plus âgés change chez les employeurs sont nombreux. Il faut déconstruire les préjugés. J'entends encore trop souvent que les seniors sont dépassés. Hein. Alors que hein, certains se tiennent à la page, hein. Y en a, c'est même devenu des créateurs de contenu. Manque d'énergie, qui ne sauront pas s'adapter. Et ces reproches, ce sont parfois des recruteurs qui sont eux-mêmes dans cette tranche d'âge qui les formulent. T'as les vieux qui disent « Ah non, les vieux, non. » À partir de 55 ans, il est difficile de trouver un emploi. « Oh bah ça va, j'ai combien, moi? Quel âge j'ai, moi? Ah bah j'ai 54 ans. On est large. Après 60 ans, c'est quasiment mission impossible. Pourtant, et c'est l'objectif de ce dossier Lacroix, certains y parviennent quand même. Hein? Sylvie peut en témoigner, travaillant dans le secteur de la formation au sein d'une structure hospitalière, elle est remerciée à 60 ans. Tiens, comme par hasard. Décidée à retrouver un emploi, elle multiplie les emplois de CV sur lesquels elle a veillé à ne pas préciser son âge. Lorsque j'arrivais en entretien, certains recruteurs étaient surpris. Ils me faisaient savoir en me détaillant de la tête aux pieds, en me demandant mon âge. Pop, 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 sympa. Ambiance. Pour décrocher un nouveau boulot, Sylvie a dû accepter de sortir de son domaine d'activité. Elle cumule aujourd'hui des CDD dans le tourisme et l'accompagnement des enfants. Ouais, c'est pas fou quand même, plusieurs emplois, quoi. Laure, 60 ans, a fait un bilan de compétences. Ben, viens par la petite article. Marie, 65 ans, embauchée en CDD dans le secteur de la finance. Ouais, on est quand même sur du précaire, un peu du contrat court. Hein. Patrice, 60 ans, aujourd'hui salarié après des années en tant qu'indépendant dans l'architecture. Lui, il est salarié. Ok. Mais viens par là, toi. Bruno, 64 ans, carrière dans l'industrie, a dû accepter d'être moins payé lorsqu'il a été recruté en tant que responsable administratif et financier dans une entreprise de distribution d'acier. J'ai fait une concession, mais je gagnais tout de même plus que lorsque j'étais au chômage. Le facteur financier est l'une des raisons qui m'ont poussé à rechercher un travail alors que j'aurais pu rester au chômage dans l'attente de ma retraite. Je sentais que c'était important pour ma santé physique et mentale de continuer à travailler. Tout comme l'image que je l'ai envoyée à mes enfants. Ok. Ouais. C'est quand même quelques petits exemples pas foufou, quoi. On voit bien qu'en France, il y a un problème. Sugar, je peux aller voir l'historique de Trist Twitch, là, pour le plaisir ou pas? Je sais que tu la bannes, mais je sens qu'on va se régaler, là. petit plaisir solitaire, là. Il n'y a pas grand-chose? Ah oui, il y a un message. Ah ouais. Un seul message historique? Un seul, c'est décevant. Follower depuis le 29 mai. Oh ben, petit ange parti trop tôt. Alors du coup, un seul message dans l'historique, c'est quoi? Ferme ta gueule, salope. Ah ouais, ouais, c'est pas foufou. C'est pas foufou. On avait hâte du deuxième message, en vrai. On avait hâte du deuxième message. Non, c'est vrai qu'alors... On repousse l'âge de départ en retraite. On veut nous faire travailler plus longtemps, mais on permet pas aux vieux de travailler. Il y a un petit souci quand même. On a raté un homme qui avait tant à dire. Un homme ou une femme, on sait pas. Hein. Salut BG Design. Bon, il y a un truc qui ne va pas dans l'équation en tout cas. Hein. Bon, après, moi, je plaide surtout pour ma cause. Hein, voilà. Comme je rentre dans la zone qui craint un peu, là, en termes d'emploi. Imaginez, j'ai 54 ans. Statistiquement, je rentre dans la zone, ça va être un petit peu compliqué en mode d'emploi. Imaginez, j'avais un travail avant. Et imaginez, un jour, on m'enlève 75% comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ce serait fou, je serais pile dans les stats du truc. ce serait incroyable, ça. Ça n'arrivera pas, bien sûr, mais c'est quand même fou. Donc après ça, après les vieux, on va lire quoi? Donc ça, c'était où? 7, 8... Ah, on va parler de foot! On va parler de football! Merci, Rnsnur, merci pour ton message. L'Euro de football féminin, ouais. Vendredi, je lancerai un appel à soutenir les Françaises dans l'Euro de féminin de football. Oui, mesdames et messieurs. Yes, vendredi matin, je lancerai un appel pour soutenir l'équipe française féminine de football. Voilà. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu connais rien? Si. Je lis les journaux. Voilà. Une petite OP. Vendredi. Bref, donc. Du coup, il faut que je me cale un petit peu sur le sujet et je suis allé chercher tous les articles sur le sujet. Et en vrai, il y a des beaux articles. Il y a l'Humanité. En fait, les journaux nous disent que ça va être une belle édition, la 2025, de l'Euro féminin de football. Dans l'UMA. L'UMA fait un bel article qui est page 15. Ouais. Tchac, kiosque. Tchac. Tchac, tchac. Sur cette chaîne, il y a aussi les bruitages. C'est gratuit, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de supplément bruitage. 2025, l'édition de tous les records, c'est parti. Le championnat d'Europe des nations féminins débute ce mercredi, c'est aujourd'hui en Suisse. Tous les indicateurs économiques sont en forte augmentation, preuve de l'attrait pour cette compétition. What? Le grand public s'intéresse de plus en plus au sport féminin? Ok. Let's go! C'est très bien ça. Merci pour ta charte pour le 26e mois. Gravissons les sommets de l'émotion, c'est le slogan de cette édition 2025. L'invitation semble avoir été entendue. Avant même son coup d'envoi, la 14e édition du championnat d'Europe féminin de football en Suisse annonce déjà comme une réussite. 600 000 billets, mesdames et messieurs, vendus. Record, alors que la compétition débute aujourd'hui avec le match Islande-Finlande à Thun, suivi de Suisse-Norvège à Bâle. Organisé dans 8 stades à travers Bâle. Bâle pour l'Euro de football. Hein ? Magnifique. Le slogan est pas foufou. Bah si, quand même. Gravissons les sommets de l'émotion. Ça va, en vrai. Ouais. Ils ont renommé la ville exprès, il paraît, me dit Sugar. Avant, ça s'appelait comment, du coup ? Organisé dans 8 stades à travers la Confédération, l'Euro représente une jauge globale de 700 000 places qui pourrait bien être atteinte d'ici la finale du 27 juillet au Parc Saint-Jacques de Bâle. Justement. L'un de nos principaux objectifs était de vendre tous les billets pour l'événement. Je me souviens comment les gens ont ri quand on a fixé cet objectif, mais il est en train de devenir réalité. Se réjouit Nadine Kessler, qui est responsable du foot féminin à l'UEFA. C'est bien en vrai. C'est bien en vrai. Édition après édition, les records de fréquentation s'accumulent. Après les 247 000 billets vendus aux Pays-Bas en 2017, l'Angleterre avait placé la barre très haut avec un total de 574 000 billets. Et là, on est déjà à plus de 600 000. Voilà. L'engouement ne s'est pas tari, alors que la Suisse ne possède pas vraiment de grands stades, hein, de très grands stades, et que celui de Bâle, le plus grand, n'a que 38 000 places. Donc c'est vraiment pas mal. 600 000 billets vendus, 35% achetés à l'étranger. Voilà, ça vient d'Allemagne, ça vient d'Angleterre, ça vient de France, mais moins. Ça vient beaucoup d'Allemagne et d'Angleterre. Un peu des Pays-Bas, des États-Unis aussi. Voilà. L'impact économique pour la Suisse est évalué à 184 millions d'euros. Et en plus, ils ont besoin de sous encore, les Suisses. C'est dingue, ça. Enfin bon. Donc, réussite économique. La couverture médiatique s'est élargie aussi à près d'une vingtaine de chaînes européennes qui couvrent l'épreuve. En France, c'est le groupe TF1 qui a acquis les droits télé pour environ 20 millions d'euros et a conclu un accord de sous-licence avec France Télévisions qui pourra diffuser aussi pour 12 matchs, dont le dernier dans la phase de groupe des Bleus face aux Pays-Bas. Le groupe TF1 retransmettra l'intégralité des 18 rencontres sur ses chaînes, mais aussi sur TF1+, le streaming. Voilà, tout le monde est content. Alors, qui va gagner ? La France, bien sûr. Non, on ne sait pas. Là, je crois que la France, on vérifiera tout à l'heure, la France n'a pas dépassé les quarts de finale, je crois, de l'Euro, ce qui est déjà pas mal, en vrai. Je me demande si à la dernière édition, ils n'ont pas fait quart. Voilà. Donc, on espère plus, bien sûr. Voilà. Côté sportif, parmi les 16 équipes qualifiées, l'Allemagne et la France se présentent comme outsiders, tandis que l'Espagne et l'Angleterre sont les grandes favorites. Championne du monde en 2023, la Roja vit son premier titre, mais les Lyonnaises, donc ça doit être les Anglaises, veulent conserver leur couronne européenne. Il y a les États-Unis ? Bah oui, dans l'Euro 2025, oui, bien sûr. Elle a été bonne, ta blague. Dans la Coupe d'Europe des Nations. Les États-Unis. Elle est pas mal, elle est pas mal, je valide. Elle est technique, mais elle est bonne. Ok, et l'équipe en parle beaucoup aussi ce matin. Tout sauf neutre. Ah, la Suisse, la petite blague. Voilà. Que dit l'équipe ? J'aime bien l'équipe parce que parfois ils ont des articles un petit peu drôles, un petit peu. Avec un petit peu de lyrisme, ils écrivent ce matin, c'est Siani Dalmat. On n'est pas toujours très juste en pronostic, mais on ne mettra pas tout notre budget vacances sur la sélection helvétique, qui a reçu une sacrée correction de la part des Bleus fin avril, 4-0. Bam ! À Nancy. Alors, côté France, 3 cadres françaises ont été écartées par le sélectionneur Laurent Bonadei, Wendy Renard, Eugénie Lesommer et Kenza Dali. Mais même privé de ces joueuses qui cumulent 444 sélections, les Françaises arrivent sur une dynamique impressionnante de 8 succès bam, 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 en 2025, dont un dernier renversant contre le Brésil 3-2 vendredi dernier. S'il rêve de rapporter son premier sacre à la France, Bonadei n'a pour autant pas souhaité quitter le costume d'outsider en file de sa nomination en septembre dernier. Je crois que jusque là on est allé au quart maximum. Il a laissé le statut de favori à d'autres, donc l'Allemagne. On a parlé des Anglaises aussi et les Espagnols. L'équipe qui a l'air de dire que ça va être cool aussi. Ah ouais, la France, ils ont mis qu'une. Favori, 4 étoiles Angleterre-Espagne, 3 étoiles Allemagne, 2 étoiles Suède, France-Pays-Bas, 1 étoile. On a fait la demi en 2021?
Ah.
Ah, merci Simba. On aurait fait la demi en 2021. Autant pour moi. Oui? Premier match des Bleus. Samedi. France-Angleterre. Aïe, on commence tout de suite par du dur. France-Angleterre. Le 9 juillet, mercredi, France-Pays de Galles. On est en phase de groupe deuxième journée. Troisième journée. Et Pays-Bas-France, dimanche. Ouais. Okay. Ouais, ça commence fort. Et moi, j'étais allé voir le palmarès de l'équipe de France. On va essayer de retrouver. Okay. Vite fait. Alors, palmarès. Je l'ai. Alors, palmarès. Palmarès, coupe, championnat d'Europe, demi-finale 2022. T'as raison. Donc c'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Et vendredi, je lancerai un appel solennel pour que Question pour un champion revienne en. Non, 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 ça. Ah, Samuel, c'est un autre logiciel, ça. Vendredi, je lancerai un appel solennel pour que la France soutienne son équipe de France féminine à l'Euro 2025. Oui, mesdames et messieurs. Oui, l'appel du 4 juillet, exactement. Exactement. Et je ferai peut-être gagner un maillot de l'équipe de France. On est en train de. Bon, je suis pas sûr, je devrais pas le dire. On essaie de faire gagner un maillot de l'équipe de France. Voilà. Dans le cas d'une OP, hein, je suis tout à fait transparent là-dessus. Moi, je suis un fou, moi. Je suis un malade. Je suis un maboule. Bon, moi, je crois que c'est. Ah, bah voilà, on a fait le tour. Il est beau le maillot, c'est vrai. J'espère que je l'aurai, c'est pas sûr, sûr, sûr. Mais on m'avait dit, est-ce que tu veux le faire gagner sur Insta ou sur Twitch? Parce que je ferai une petite vidéo sur Insta. C'est ce que j'ai enregistré hier soir. Et j'ai dit, les gars, s'il y a un maillot, laissez-le pour la commu. Hein. On va pas donner aux Insta, je sais pas quoi, là, Instagram, je sais plus quoi, là. Hein? On va, non. Je leur ai dit, s'il y a un maillot, j'espère qu'il y aura, mais c'est pas sûr, hein. C'est pour le live, je leur ai dit. Eh les gars, c'est pour la commu. Ils m'ont dit ok, d'accord. Donc j'attends des nouvelles. Et ce qui m'amène à la suite, c'est-à-dire que je ne peux pas streamer. Tu l'auras sur le terrain, Sam, hashtag le mec a rien compris. Hein, quoi? Louis, à la suite, pas de stream ce soir. Je suis à Marseille. Je vais aux rencontres internationales des médias. Voilà. J'espère qu'on ne va pas me poser des questions là-bas sur questions pour un champion. Hein, bon, on va préparer l'avenir là-bas. Donc ça, quel jour on est demain? Jeudi. Vendredi matin, bah, je suis toujours à Marseille pour participer au truc. Je rentre vendredi fin d'après-midi. Et normalement, j'essaie de faire un stream le soir. Je raconte n'importe quoi. Il faut que je prenne mon agenda. Je suis aux fraises là. Soyons précis. Oui, je sais, Sugar, je raconte n'importe quoi. Je prends mon agenda papier électronique. Alors, attendez, je pars à Marseille cet après-midi. Je reviens jeudi 18h, 20h. Peut-être une revue de presse. Oh non, du gaming jeudi soir, ça c'est sûr. Vendredi matin, revue de presse, c'est sûr. Revue de presse, c'est sûr. L'après-midi, le vendredi 4, j'ai cours de danse. J'ai cours de danse tout l'après-midi. Donc là, je ne peux pas streamer. La question, c'est est-ce que je stream vendredi soir? C'est pas sûr parce que samedi, je pars en Corse et il faut peut-être un moment aider à la préparation des valises. Notamment parce que dans la préparation des valises, il y a le setup. Il y a le setup. Il y a le setup pour la Corse parce que ça va streamer tous les jours. Donc je suis pas sûr de streamer vendredi soir. Mais on streamera vendredi matin ou plus tard. Vis ma vie de meilleure vie, quoi. Danse, ouais, je prends des cours. Oui, bien sûr. Je prends des cours de danse. Quelle est l'info? Quel est le. Je vous ai jamais parlé de mes cours de danse. Je danse, moi. Je suis un danseur, moi. Vous croyez que ça, vous croyez que ça, ça vient de... vous croyez que c'est l'ADN, ça? Vous croyez que c'est génétique, ça? Vous croyez que c'est comme ça? Regardez ça, regardez ça. Vous croyez que ça vient d'où, ça? C'est du travail, ça. C'est les années de travail, ça. Ça, vous croyez que ça vient d'où, ça? C'est pas un... c'est... Vous vous rendez pas compte? Je pensais que c'était pour faire ta part des tâches, mais c'est pour streamer que tu fais tes valises. Ah non, 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 moi, les valises, c'est juste pour mettre mon setup. Hein. Non, 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 je déconne. Bah... N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de trolls sur cette chaîne aussi. Je vois que certains journalistes qui travaillent un peu trop vite en font parfois des informations. Doucement, doucement. Oh, 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 bijoux. Alors, qui est en live? Qui est en live? Qu'on fasse un raid. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais. Ouais. Vous avez craqué quoi. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire du crochet. On va faire du crochet. On va faire des peluches de dragon en crochet. Voilà. Je vois une streameuse que je connais, que je suis déjà, voilà, qui, dont l'intitulé de stream est magique. C'est après me crochet, on fait des peluches de dragon pour mes nièces. Là, moi, je pense. Il y a un petit ventilo en plus. Le setup est tout mignon. Let's go. On va faire du crochet, des peluches de dragon. Voilà. Zéro débat. Voilà. On soutient les streameuses. Let's go. Tchoum. On est sur l'artisanat, tout ça. C'est, la chaîne s'appelle Clem. Clem, le tiret du bas. M-L-R-T. Je vous envoie. Go faire des dragons. On aime les dragons ici. Les amis, à demain matin. Non, je suis à Marseille. À demain soir. De retour de Marseille pour le live. Le gaming. Et puis, vendredi matin pour la revue de presse. Et merci pour le soutien. Merci pour tout. Merci pour les subs. Merci pour tout. Vous êtes formidables. Prenez soin de vous. Attention à la chaleur. Caliente. Et à demain soir. Merci les amis. On va voir des dragons et du crochet. Ciao, ciao.
Au midi et 15-16 heures, non. Mais
Pourde.
Et au pétard de pétard.
Pourde. Merci beaucoup Samuel, OMG. Merci beaucoup pour le rêve.